Enregistrer, partager. Voilà. En ligne. Vous voyez? Vous m'entendez? Mettez-moi un message dans le chat. Si.
Alors, on vous entend, mais on
Très
vous voit
bien.
pas.
Et
Moi, je
vous
vois pas.
voyez?
Ok, oui, c'est bon.
Très bien. Bon, très bien. Bon, 5 minutes de perdu, c'est pas trop grave. Bon, bonjour à tous. Alors, c'est le cours 3. Alors, je vous avais parlé de l'estimation bayésienne et je vous avais dit qu'on pouvait poser le problème de l'assimilation. Donc, en tout cas, ce serait la ligne de présentation que je prendrais en termes d'estimation bayésienne. Bon, l'estimation bayésienne, alors, pour mettre, poser le problème en termes très formels, mais on va reconstituer un vecteur d'état que je dénote x, de dimension n. Vecteur d'état, ça peut être le champ de pression sur toute la surface de la Terre à un instant donné, l'ensemble de tous les champs météorologiques sur la grille modèle à un instant donné, l'ensemble de tous les champs météorologiques sur la grille du modèle sur une période de temps donnée. Bon, c'est ce que je veux reconstituer. Et je dispose, alors je dispose de données, j'ai donné un vecteur de données Z de dimension m. Ça, c'est ce dont je dispose. Typiquement, les observations, les lois d'évolution du système. Alors, pour ce qui est de notation, je noterai avec une lettre grasse les vecteurs, avec x ou z, et puis avec une lettre ordinaire, les quantités scalaires. Alors, j'ai une relation entre ce que je connais et ce que je veux reconstituer. Et je suppose que cette relation est de la forme Z égale grand F de X et de zeta, où zeta, c'est un élément aléatoire, c'est là que ça va s'introduire l'élément bayésien, qui représente l'incertitude dans la relation entre Z et X, les erreurs d'observation, par exemple. Et je suppose que pour ce zeta, je connais une loi de probabilité, ce qui est une hypothèse extrêmement forte. Mais c'est bon, c'est... Alors, par exemple, je peux avoir, ce sera ce que j'utiliserai dans la suite à certains moments, une relation de la relation z égale gamma de x plus zeta. Je sais que mes données z sont reliées à x par matrice de coefficients qui représente les mesures que j'ai, qui représente en quoi mes observations dépendent de l'état constitué. Et puis il y a une erreur de l'état qui s'ajoute. De ce type-là, par exemple. Alors, l'estimation bayésienne, c'est dire, je prends un xi. Un xi, alors quand j'utilise les lettres grecques, évidemment, alors, il ne faut pas confondre les xi et les états. Enfin, je prends un xi dans l'espace des états. Et je me pose la probabilité de savoir si x peut être égal à xi. Alors, pour que x soit égal à xi, il faut que z soit égal à f de xi et de zeta. Et alors, la probabilité que x soit égal à xi connaissant z, c'est égal à la probabilité que z soit égal à f de x et de zeta. Si je veux une probabilité avec un coefficient de normalisation qui est l'intégrale sur tous les xi de la quantité au numérateur. Bon, ça, c'est un coefficient de normalisation. Non, en fait, je n'ai pas besoin. Non, pratiquement. Alors ça n'est défini de façon non ambiguë que c'est pour chaque zeta, il y ait un seul x qui vérifie la condition que z soit égal à f de x et de zeta. Pour chaque zeta, il faut qu'il y ait un seul x possible. Autrement, on ne saura pas à quel x attribuer ce zeta. Bon, alors c'est simplement une question de surdétermination. Ça veut dire que les données contiennent, directement ou indirectement, de l'information sur toutes les composantes, toutes les inconnues x. une des conditions des déterminations, qui implique que le vecteur des données, Z, soit au moins aussi grand que le vecteur de quantité à reconstituer. Et dans le cas que j'avais écrit là, Z égale gamma x plus zeta, ça veut dire que gamma x n'est nul que si x est nul. Ça veut dire ça, simplement ça. Gamma x est nul que si x est nul. Bon. Alors ça, c'est en termes très généraux, l'estimation bayésienne. Ça pose en termes généraux, mais ce n'est pas forcément très utile dans la pratique, ce que je dis à l'instant. Bon, alors dans la pratique, ça, c'est un diapo que vous avez déjà vu la semaine dernière. L'estimation bayésienne est en fait impossible, certaines formes générales, dans des problèmes météorologiques et océanographiques. Pour deux raisons. Les dimensions sont beaucoup plus grandes pour qu'on puisse décrire une distribution de probabilité, même dans un espace de dimension 1000. On ne peut pas, dans la pratique, décrire numériquement une dimension de dimension 1000, même avec les calculateurs actuels. Bon, ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité, the curse of dimensionality. Et puis, de toute façon, les distributions de probabilité sur les erreurs sont très, très, très mal connues. On utilise un modèle d'intégration, un modèle de circulation atmosphérique et océanique, qui a des erreurs. On constate qu'il y a des erreurs. On constate qu'en améliorant les modèles, on diminue les erreurs. Mais on n'a pas de distribution de probabilité pour les erreurs. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le temps nécessaire pour accumuler des statistiques significatives sur les erreurs des modèles, pour faire en comparant fondamentalement les résultats du modèle avec les observations qui suivent, le temps nécessaire pour accumuler des statistiques significatives est beaucoup plus grand que le temps de vie des modèles, parce que les modèles sont constamment améliorés, on constate qu'on les a améliorés, mais avant d'avoir fait des statistiques précises sur les erreurs. Bon, donc, en pratique, le système est impossible. L'estimation bayésienne est impossible. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est inutile, parce que ça donne une ligne directrice dans laquelle travailler. On met des coefficients dans les algorithmes d'assimilation. Le fait de se mettre dans la logique bayésienne permet de donner une signification à ces coefficients, ce qui est extrêmement utile. Alors, en pratique, on a à se réduire à deux approches. La première, c'est d'obtenir une espèce d'état central, non, moyenne statistique, un mode, l'état pour lequel la probabilité est maximum, plus une certaine estimation des erreurs ou des incertitudes associées dans différentes directions. Ou alors, prendre une approche ensembliste, c'est-à-dire produire un certain nombre d'états possibles du système. Également probable ou peut-être pas, ça c'est autre chose, mais enfin qui est censé échantillonner l'incertitude, ce qui est un moyen pratique de représenter une distribution de probabilité par un certain nombre de points. Et pour des raisons que je vous dirai, il s'avère qu'avec des ensembles de dimensions de quelques dizaines ou quelques centaines, on peut obtenir des choses très utiles, bien que la dimension des modèles soient beaucoup plus grandes, 10 puissance 7, 10 puissance 8. Bon. Mais avec, et ce sont les méthodes ensemblistes qui sont utilisées et même en gros, de plus en plus utilisées. Bon, alors est-ce que vous avez des questions là-dessus? Des questions, des clarifications. Alors, pour aujourd'hui, le programme, c'est. Je vais vous rappeler un certain nombre de notions élémentaires de théorie de probabilité. Alors au départ, ce sera quelque chose que vous connaissez parfaitement. Et puis ensuite, je viendrai des vecteurs aléatoires, et puis matrices de covariance, et puis des fonctions aléatoires et des fonctions de covariance. Là, c'est peut-être deux choses que vous ne connaissez pas forcément très bien. Et puis, je vous parlerai de la méthode la plus simple utilisée dans le contexte de l'assimilation, ce qu'on appelle l'interpolation optimale. Je vous en décrirai le principe, je donnerai quelques exemples simples et je donnerai les propriétés de base. L'interpolation optimale, si je vous l'ai dit, c'est la plus simple des méthodes non simplistes pour faire de l'assimilation d'observation. Et puis, je vous parlerai de quelque chose qui s'appelle le best Linear Unbiased Estimator, Blue, qui est une approche qui n'est pas explicitement, explicitement bayésienne, qui est probabiliste, mais sans être bayésienne, mais qui, dans le cas gaussien et linéaire, est totalement bayésienne. Alors, là, maintenant, on rappelle une notion connue. Oui.
Prérequis pour appliquer à ce qu'on veut faire une technique d'assimilation. Imaginons que ce soit autre chose que qu'on prédire des champs météo. Est-ce qu'il y a des prérequis sur ce qu'on essaye de prédire? Par exemple, je ne sais pas moi, une variance finie ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a ce genre de prérequis pour appliquer les techniques d'assimilation de données?
Bon. Il faut avoir une idée du lien physique, statistique entre les données dont on dispose et ce qu'on veut reconstituer. C'est le seul véritable prérequis. Alors ce lien, je vous en ai déjà parlé, c'est un grand changement dans le contexte de l'assimilation depuis quelques années. Ce lien, si on a des accumulations des statistiques, des ensembles d'apprentissage, peut être déterminé par des méthodes de réseau de neurones commencent à être utilisées dans ce domaine-là, mais qui ne l'étaient pas il y a 5 ans. Tandis que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des choses qui existent depuis assez longtemps.
Il n'y a pas de prérequis si on arrive à prédire plus ou moins le
Si
caractère.
on a une idée du lien entre ce qu'on veut reconstituer et ce dont on dispose, non, il n'y a fondamentalement pas d'autres prérequis. Non, je dirais que. On doit pouvoir se débrouiller de ça.
On n'a aucune idée.
Ah, même si on a, mais, oui, effectivement, même si on n'a aucune idée d'un lien physique, par exemple, même si c'est la situation d'accumulation de données totalement empirique, on peut mettre en route des algorithmes d'assimilation. Alors, bon, il faudra avoir, dans ce cas-là, il faut quand même avoir une idée du lien entre ce dont on dispose. Et les données dont on dispose et qu'on va reconstituer. Ce lien peut être fondé sur des lois physiques, biologiques, économiques, après tout, que l'on connaît déjà, ou ce lien peut être fondé, les deux ne sont évidemment pas incompatibles, par un apprentissage automatique qui maintenant se développe énormément, le réseau de neurones. Alors, une variable scalaire, ça c'est simple, une variable scalaire, je prends la température à la station de Montsouris à Paris, j'accumule des observations de température sur les années et puis j'obtiens une distribution de probabilité pratique. Bon. Alors, pour être un peu plus précis, une variable aléatoire, oui, alors en anglais, aléatoire se dit random. Je signale incidemment que c'est un mot français ancien, randon, et qu'on trouve encore en français dans le mot randonnée. Le mot randonnée, c'est le mot anglais random. Random, incidemment, est un des rares mots anglais, un des rares mots qui, en anglais, du vocabulaire scientifique, j'entends, qui sont différents en anglais et en français. Voir des mots en anglais sont les mêmes qu'en français pour le vocabulaire scientifique, j'entends bien. Mais random est un des rares qui donne son. Bon, alors si j'ai une variable aléatoire, ça veut dire que pour tout intervalle AB réel sur la grille réelle, je connais la probabilité que X, ma variable aléatoire, soit comprise entre A et B. Alors, dans cette condition, que les inégalités soient strictes ou non, peut importer, parce qu'il se peut qu'il y ait une probabilité finie qu'une certaine quantité ait une valeur précise non nulle. Par exemple, si je regarde l'épaisseur de neige à la surface des continents, la probabilité, dans la plupart des situations, la probabilité que cette épaisseur de neige soit égale à zéro sera finie. Suivant les cas, 100%, 3%, 50%, mais sera finie. Par contre, d'autres fonctions d'autres probabilités peuvent être continues et prendre des valeurs finies uniquement sur des intervalles finis. Éventuellement. Alors, de façon générale, étant donné une distribution de probabilité, il existe toujours la densité de probabilité, en anglais, probability density function, c'est-à-dire une fonction p de xi, telle que pour tout intervalle AB, la probabilité que A soit compris, que X soit compris entre A et B, est égale à l'intégrale de pi de xi de A à B. Ça existe toujours. Et là aussi, suivant les inégalités, peuvent être strictes ou non strictes, ce qui peut changer. Et la densité de probabilité peut contenir des Dirac, hein, des valeurs. L'intégrale est non nulle sur un intervalle sur un point fixe, même un point fixe. Alors évidemment, il y a une condition de normalisation que l'intégrale de la densité de probabilité de moins l'infini à plus l'infini soit égale à 1. Alors une fois qu'on a une variable aléatoire, on peut s'intéresser à différentes quantités, en particulier sa moyenne, expectation en anglais. La moyenne, c'est la valeur moyenne du système sur un grand nombre de réalisations, si on se place dans un contexte de probabilité décrivant la fréquence d'occurrence d'un certain état d'observation dans un grand nombre de réalisations. Mais la notion de probabilité est quand même indépendante de la notion stricte de réalisation. En particulier, quand on utilise ce que nous faisons, les probabilités pour définir une incertitude, ce n'est pas le résultat nécessairement d'un grand nombre de réalisations. Alors, la moyenne, mathématiquement, ça s'écrit comme l'intégrale entre E de X de la densité de probabilité P de Xi multipliée par Xi, intégrée de moins l'infini à plus l'infini. Alors, ça peut ne pas exister, hein, il y a 10 distributions de probabilité pour lequel la moyenne est infinie. Hein. Il y en a une truc encore très simple qui n'a rien à voir avec la météorologie, mais vous avancez le long d'un axe plus 1, moins 1 avec probabilité 1,5 à chaque coup et vous répétez. La probabilité que vous partiez du point 0, que vous atteigniez le point 1 est égale à 1, c'est-à-dire pour interagir, non, vous aurez. Mais le temps moyen pour atteindre le point 1 est infini. Parce que vous avez 1,5, probabilité 1,5 de l'acquérir d'un coup, et puis une probabilité 1,5 de partir à moins 1, et ensuite vous devrez deux fois le temps nécessaire pour passer d'une unité, et bien ça, c'est un temps infini. Je vais essayer de le montrer. Bon. Alors, vous pouvez de montrer la variance. Alors, vous connaissez ce que c'est. La variance d'une variable aléatoire x, c'est la moyenne de l'écart quadratique entre x et sa moyenne, qui peut ne pas exister. Alors vous savez que la variance est égale au carré de la variable, la moyenne est égale à la moyenne du carré moins le carré de la moyenne. Vous savez. Mais ça veut dire que si j'ajoute une constante à une variable aléatoire, la même constante sera ajoutée à la moyenne, donc la variance ne changera pas, ce qui veut dire que la moyenne le carré de la moyenne, qui est égal que le carré de le carré de la moyenne qui est égal pas le carré de la moyenne que la moyenne du carré e de x2 qui sera égal à e de à la variance plus e de x au carré sera minimum quand la moyenne elle-même est nulle. Et donc, ça veut dire que par exemple vous avez un objet un solide. Vous vous intéressez à son axe, à son moment d'inertie par rapport à un axe quelconque, eh bien le moment d'inertie est minimum quand l'axe passe par le centre de gravité du solide. Bon, c'est ça. Bon, alors vous avez évidemment l'écart standard, qui est la racine carrée de la variance. Et alors, quand ça sera nécessaire, je noterai x', la variable centrée, c'est-à-dire la moyenne x, la variable moins sa moyenne. Évidemment, la moyenne de x' est nulle. Bon, alors maintenant, un couple de variables aléatoires, x1, x2, j'ai un couple de variables aléatoires. Ça veut dire que pour n'importe quel couple a1b1, a2b2 dans le plan x1, x2, la probabilité que x1 soit inférieur à 1 et soit compris entre a1 et b1 et que x2 soit compris entre a2 et b2 est connue. Et alors, il existe une densité de probabilité à deux dimensions, P de Xi1, Xi2, telle que la probabilité que Xi1, Xi2 appartiennent à un domaine D quelconque, enfin mesurable, D, est égale à l'intégrale, que ce soit un rectangle ou autre chose, est égale à l'intégrale de la densité de probabilité P Xi1, Xi2 sur D. Bon, encore, P de Xi1, Xi2, c'est la densité de probabilité. Alors, si vous avez deux variables, la moyenne de la somme x1, x2, c'est la somme des moyennes. Ça, pas très compliqué. Alors, une notion importante, c'est deux notions importantes, c'est les notions de corrélation et d'indépendance. Alors, la covariance de deux variables x1 et x2, c'est la moyenne du produit x'1, x'2, centré. Bon. Alors, et la corrélation de deux variables x1 et x2, c'est la covariance divisée par le produit des écarts standards. Alors ça, d'après le théorème, la relation, comment elle s'appelle, la relation de Cauchy-Schwarz, c'est compris entre moins 1 et plus 1, et ça peut être pris comme un cosinus. Donc le cosinus phi, on peut dire que c'est défini en angle phi entre les deux variables. Alors la covariance, en fait, c'est un produit scalaire, et ça définit une géométrie euclidienne, tous les produits scalaires, sur l'espace des variables aléatoires qui ont une variance finie. Ça, c'est un espace bien constitué, un espace L2 des variables aléatoires qui ont une variance finie. Alors, sur cet espace-là, la covariance définit un produit scalaire. Le module d'une variable, c'est sa écart standard, et l'angle de deux variables, c'est le cosinus, c'est phi cosinus, mais c'est cosinus moins 1 de la corrélation. Et dans ce contexte, l'orthogonalité veut dire décorrélation. Décorrélation, même, c'est une orthogonalité. Et tous les raisonnements géométriques s'appliquent. Je l'utiliserai plus tard. Bon, alors si x1 et x2 sont décorrélés, eh bien on obtient que variance de x1 plus x2 est égale à variance de x1 plus la variance de x2. Ça, en fait, c'est dans le contexte géométrique, c'est le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés. C'est ça que ça veut dire. Et puis le produit, alors c'est toute autre chose, la moyenne du produit, c'est le produit des moyennes. Bon, si les variables sont décorrélées. Mais il y a une autre propriété, c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est que, entre x1 et x2, c'est qu'on connaît les connaissances de l'une des deux variables, n'introduit aucune connaissance sur l'autre. Ce qui veut dire que pour deux couples d'intervalles 1B1 et 2B2, la probabilité que x1 soit un fait compris sur 1B1 et x2 sur 2B2, c'est égal au produit des probabilités correspondantes. La probabilité que x1 soit 1B1 et que x2 soit compris entre 2. Et de façon générale, les densités de probabilité se multiplient. La densité de probabilité pour le couple xi1 xi2 est égale au produit des densités de probabilité pour xi1 xi2. Donc, de ce point de vue-là, l'indépendance implique la décorrélation. L'indépendance implique. Mais l'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. L'indépendance est une condition plus forte que la décorrélation. Et un exemple tout simple, vous considérez une variable alpha distribuée uniformément entre 0 et 2 pi sur le cercle unité. Vous prenez le cosinus. Cosinus alpha, vous prenez le S sinus alpha, ce sont deux variables aléatoires, deux moyennes nulles, pas indépendantes, puisque S2 plus C2 est égal à 1, donc si vous connaissez l'un des deux, vous connaissez l'autre au signe près, et pourtant, elles sont décorrélées, parce que la moyenne du produit cosinus alpha, sinus alpha pris entre 0 et 2 pi, c'est 0. Donc là, ce sont deux variables décorrélées, mais non indépendantes. L'indépendance est une propriété plus forte que la décorrélation. Bon, question là-dessus? Je continue. Maintenant, au lieu de prendre un vecteur aléatoire, au lieu de prendre une variable aléatoire ou un couple de variables aléatoires, je prends un vecteur aléatoire, x1, x2, xn. Alors aussi autre chose, quand je parlerai de vecteurs, question de notation, ça serait censé être des vecteurs colonnes. Et puis quand je vais le mettre à l'horizontale, il faut le transposer. Bon, là, c'est assez commode, si on utilise la convention ligne-colonne, des produits de matrice, hein, il y en aura. Quand j'utilise la convention ligne-colonne pour produire, multiplier des matrices de vecteurs, c'est commode de faire ce que je veux. C'est-à-dire un vecteur ligne, c'est un vecteur colonne transposé. Donc j'écris X vecteur colonne égale x1 vecteur ligne, parce que sur l'écran c'est plus facile à écrire, transposé. Alors, bon, ça peut être le vecteur aléatoire, mais c'est ce que je disais, ça peut être la pression, la température, l'abondance d'un polluant chimique ou n'importe quoi, ou n gris, point de grise d'un modèle de Noël. Alors, j'ai un vecteur moyenne, dont les composantes sont les moyennes des composantes, et puis j'ai un vecteur centré x' égale x moins x, maintenant j'ai des vecteurs, alors vous pouvez voir que c'est des vecteurs parce que j'ai en principe un caractère gras. Vous voyez, quand j'écris ici e de x vecteur égale le vecteur constitué de e de x x scalaire, vous voyez, le x i, là, c'est censé ne pas, et n'est pas en gras. Bon, c'est ça la nuance. Alors, je ne dis pas que je ne me trompe pas, hein. Je dis pas que je me trompe pas. Alors, on définit la matrice de covariance. Alors, la matrice de covariance, c'est le vecteur x' multiplié par x' transposé. Alors, c'est un vecteur colonne multiplié par un vecteur ligne. Donc, ça, c'est une matrice de dimension n, dont les éléments sont les covariances entre tous les couples x', x'j. Donc, ça, c'est une matrice de dimension n. Et j'en profite pour dire quelque chose, parce que ça aura de l'importance pour la suite. Là, j'ai un produit x', x' transposé. Il y a des circonstances où on peut avoir un produit ligne-colonne. X' ligne, x' transposé, ligne multipliée par x' colonne. Ça n'est possible que si x et x', x et x' ont la même dimension. Et c'est un produit scalaire. Donc, suivant la manière dont les produits sont écrits dans le sens vecteur-colonne transposé, ou vecteur transposé, vecteur colonne, ce n'est pas la même signification. Je ne veux pas dire que c'est passionnant comme considération, mais vous aurez des tas de formules, en particulier dans le fil de Coleman, où ces choses-là interviennent en permanence. Donc je vais... Alors, j'ai un vecteur x' aléatoire. Axe. Oui, non, non. Je prends des scalaires lambda i, non aléatoires. Je prends la quantité g égale sigma de lambda i x'i. Je prends g au carré, qui est la somme double sigma sur ij de lambda i lambda j x'i x'j. Et je prends la moyenne de ça. Comme les lambda i ne sont pas aléatoires, la somme de la moyenne de cette somme, c'est la somme des moyennes. Et la moyenne de chacun, comme les lambda j sont aléatoires, c'est lambda i lambda j multiplié par la moyenne de x'i x'j. Bon, ça, c'est la moyenne du carré G2. Et ça, c'est le vecteur, c'est la matrice x', x' transposée, multipliée par lambda vecteur ligne à gauche et lambda vecteur colonne à droite. Le produit, c'est la forme quadratique construite sur la matrice de covariance. Donc ça, comme c'est le carré, comme c'est la moyenne de carré, c'est indécisément positif et nul. Donc la matrice de covariance, définie ici, est symétrique, ça tombe sur le sens, ça le voit bien, mais elle est aussi définie positive, enfin définie non négative. En particulier, si les valeurs propres sont nécessairement positives. Et ce produit-là est nécessairement positif ou nul. Donc n'importe quoi ne peut pas être une matrice de covariance. De même que un scalaire ne peut être éventuellement une variance que s'il est positif. Mais c'est une généralisation de ce temps. Alors, la matrice de covariance est symétrique, non négative. Bon, définie positive, elle peut avoir une valeur propre nulle s'il y a une combinaison linéaire des x' i qui est égale à 0, avec probabilité, hein, mais ça, bon, bon, maintenant, je change de représentation. Au lieu de prendre x, je prends y égale px. Eh bien, y' égale transposé, ça sera px', x' transposé, multiplié par p transposé. Donc la matrice de covariance des x', des y', ça sera la matrice de variance des x', multipliée à gauche par la matrice p et à droite par la matrice p transposée. Ça, c'est la loi de transformation des matrices de covariance, qui n'est pas la loi de transformation habituelle, enfin habituelle, celles des matrices sont présentées comme des opérateurs. Ça sera P, P moins 1. Là, c'est P transposé. Donc, c'est pas la même chose. Alors, en termes, pour ceux qui connaissent, ça veut dire qu'une matrice de covariance est en fait un tenseur, si vous connaissez, deux fois contravariant. Le vocabulaire est totalement contradictoire, covariant, contravariant, mais enfin bon, c'est comme ça que ça existe. Mais bon, c'est pour dire que les matrices de covariance ne se transforment pas quand on change de base avec la même loi que les matrices qui représentent des opérateurs. Alors, si P transposé est égal à P moins 1, ce qui veut dire si la matrice est orthogonale, eh bien les deux transformations sont les mêmes, mais uniquement si P prend. Et en fait, je prends une matrice de covariance, je prends un vecteur aléatoire, je prends sa matrice de covariance, je peux toujours combiner les combinaisons de façon à ce que que la matrice de covariance soit égale à la matrice unité. Je peux toujours. Il suffit que je change les unités sur les différentes variables. J'ai des pressions, des températures, des densités, je ne sais pas quoi. Je change les unités physiques. Ben ça transforme la matrice de covariance, bien sûr. De même que si, quand je change l'unité physique pour une variable aléatoire, je l'exprime en mètres au lieu de centimètres, et bien la variance change. La variance est divisée par 10 puissance 4 dans ce cas-là. Et alors, ce qu'on appelle les combinaisons des variables aléatoires dans lesquelles la matrice de covariance est égale à la matrice unité, c'est ce qu'on appelle les composantes principales, qui est un outil d'estimation statistique constamment utilisé, qui a pour but de démontrer, de diagnostiquer quelles sont, dans un champ météorologique par exemple, les fluctuations dominantes. Mais ceci n'a vraiment de sens que si on utilise des unités pour les différentes quantités qui sont comparables, même une unité physique ou une certaine comparaison. Non, mais tout ça pour dire que, pour préciser un peu cette notion de matrice de covariance. Alors maintenant, au lieu de prendre un vecteur aléatoire, j'en prends deux. X de dimension n, z de dimension p. Et je prends encore la moyenne de la matrice produit, x' colonne, z' transposée ligne. Ça, c'est une matrice de dimension n et p. Bon, c'est la matrice de covariance entre les deux. Alors là, si ces deux vecteurs différents, il n'y a a priori aucune propriété particulière. C'est une matrice rectangulaire qui du coup peuvent être n'importe quoi, s'il n'y a aucune notion particulière. Et alors, dans le changement où je transforme x en u égale à x, z en v égale bz, eh bien, la matrice de covariance U prime V prime sera égal à la matrice de covariance entre X prime Z prime transposé, multipliée à gauche par A et à droite par B transposé. Je dis ça encore parce qu'il y a des formules, en particulier les formules du filtre de Kalman, où on ne fait que ça du point de vue de l'algèbre. Donc ça peut paraître un peu aride de parler de tout ça, mais ça fait faire les choses ensuite. Alors, les matrices de covariance, elles seront dénotées. La matrice de covariance avec x avec lui-même sera CXX. Là, on ne met pas les primes pour ne pas en faire trop. Et puis la matrice de covariance de x avec y sera donnée C de XY. Bon, ça donnera des formules avec ça. Bon, troisième étape. Je ne parle plus de variables aléatoires, je ne parle plus de vecteurs aléatoires. Je parle de fonction aléatoire. Alors, une fonction aléatoire, c'est par exemple, je prends le champ de pression à la surface de l'océan et des continents à un instant donné, et puis tous les jours, c'est jamais, ça change, il y a une distribution de probabilité à ceci. Donc, j'observe maintenant la distribution de probabilité sur l'ensemble du champ. C'est-à-dire que je n'ai plus un vecteur de dimension finie, j'ai une quantité de dimension infinie. C'est ce qu'on appelle une fonction aléatoire. Bon. Fonction aléatoire, ça s'appelle aussi de processus stochastique. Quand on considère une fonction aléatoire qui, en tant que fonction, est fonction du temps, c'est-à-dire un signal du temps qui est aléatoire, on parlera de processus stochastique. Mais c'est exactement la même chose qu'une fonction aléatoire. Alors, une fonction aléatoire, c'est donc en tout point xi, de l'espace dans l'espace physique, du temps. On a une moyenne, on a une variante, à chaque point, on a une moyenne, une variance. On a une fonction de covariance, qui est la covariance entre phi au point psi 1 et phi au point psi 2. Donc c'est une fonction de covariance, c'est une fonction qui est définie sur le couple de points dans l'espace physique, en fait dans l'espace FQ. On a une fonction de corrélation qui est définie de la même façon qu'une corrélation est définie à partir d'une covariance. On a une fonction. Alors, les exemples. Ça, c'est à gauche les isolignes de la fonction d'autocorrélation du géopotentiel à 500 hectopascal. C'est un document ancien. On parlait encore de millibar et pas encore de hectopascal. C'est la même chose. Entre une station qui là, se trouve être la ville de Hanovre en Allemagne et les stations voisines. Alors, la région, c'est peut-être pas absolument évident, la région, c'est l'Europe occidentale. Alors, vous voyez ici la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, l'Italie. Ensuite, à l'est, vous voyez la mer Noire, puis la mer Caspienne en morceaux, un morceau. Et puis à gauche, vous voyez le Groenland et l'Islande. Et vous avez peut-être même un petit bout de Terre-Neuve. Alors, la fonction de corrélation, c'est la fonction de corrélation. Donc, c'est la corrélation entre le géopotentiel à 500 hectopascal, entre Hanovre et les points voisins. Alors, Hanovre, c'est 1. Corrélation avec elle-même, c'est 1. À mesure qu'on s'éloigne, la corrélation diminue. Que d'une façon à peu près isotrope, les isolines, c'est à peu près des cercles. Et puis, ça diminue, ça devient zéro. Alors, vous ne l'aviez peut-être pas, l'isoligne 0, zéro corrélation, est ici. Et puis après, ça devient un peu négatif. C'est-à-dire qu'entre Hanovre ici et le point là, le géopotentiel à 500 millibars est légèrement est corrélé négativement. Oui. Ah, ça c'est en accumulant des statistiques sur le temps. Ça a été fait à partir de mesures. On a calculé à partir d'un échantillon de mesures. Alors à droite, c'est plus une autocorrélation, c'est une corrélation croisée. Bien sûr, on peut prendre la corrélation entre deux champs différents. Alors là, c'est la corrélation, c'est pas, enfin bon, c'est la corrélation entre le géopotentiel à la station qui est marquée R, ici à l'aube de la région. Là c'est la Scandinavie, vous avez la Norvège, vous avez la Suède, vous avez la mer Baltique, le Danemark, la Grande-Bretagne. Alors vous voyez, je reviens à la figure de gauche, vous voyez que ça s'annule, la corrélation s'annule à une distance de quelque chose typiquement 1000-1500 km. On peut dire que c'est la distance typique de corrélation dans les structures météorologiques dans les latitudes moyennes. Dans les latitudes moyennes. Alors à droite, vous avez les lignes de corrélation croisées entre le géopotentiel à 500 millibars, 500 hectares, ici pour le point marqué R, qui je suppose est l'aérodrome d'Oslo, et la pression de surface ailleurs. Donc c'est la corrélation en des points différents, en des quantités qui physiquement sont des quantités différentes. Alors, vous voyez qu'il y a des lignes d'isocorrélation. La corrélation du haut ne monte pas parce que vous avez 0,80. 0,85, il n'y a pas de ligne 0,90. Et a fortiori, il n'y a pas de point. Donc il y a une corrélation assez forte entre les géopotentiels à un instant donné et la pression de surface. C'est évident. Bon, je vais faire un dessin au tableau noir. Désolé pour ceux qui sont en ligne qui ne verront pas, mais je ne vais pas faire sortir. Non, vous avez le géopotentiel à 500 millibars, une salle assez élevée ici. Ça veut dire que la pression à ce niveau-là est plus grande que la pression ici. Si au-dessus de 500 millibars, vous avez une pression moindre. Et au sol, ça ne veut pas dire que la pression au sol est probablement plus forte ici que dans les points voisins, par continuité évidente. Mais la corrélation, le lien n'est pas parfait. D'abord, le maximum de corrélation n'est pas à la verticale de l'aérodrome d'Oslo, il est un peu décalé vers le sud-est, ce qui veut dire que les structures statistiquement cette structure-là, statistiquement, est inclinée un peu, et puis la corrélation n'est pas égale à 1. Hein. C'est pas parfait. Autre exemple. Alors maintenant, c'est des fonctions de corrélation des deux composantes du vent sur l'Amérique du Nord, sur les États-Unis. Alors, il y a la composante U. Alors ça, je vous connaissais peut-être, mais quand on parle du vent, quand on parle d'ailleurs de la vitesse de l'océan aussi, on utilise la notation U pour désigner la composante est-ouest dirigée positivement vers l'est et la composante V pour diriger la composante nord-sud de compter positivement vers le nord. C'est une convention universelle. Tout le monde le fait. Alors ici, alors vous avez l'autocorrélation pour U en ligne tiretée par rapport à un point central qui est ici au milieu des États-Unis, et puis en ligne pleine, la corrélation pour V. Alors vous voyez que la corrélation entre ce point-ci et les points voisins, pour ce qui est de U, ce n'est pas du tout isotrope. Les lignes ne sont pas des cercles, pas du tout des cercles, sont allongées dans le sens est-ouest. Et puis autour d'un noyau positif, on a deux noyaux négatifs de part et d'autre. Et quand vous regardez la composante V, ben on obtient la même chose tournée de pi sur 2. Donc, ce qui est vrai pour U dans la direction est-ouest est vrai pour V dans la direction nord-sud. Donc, il y a une espèce d'isotropie, de symétrie à deux dimensions entre les deux. Bon. Alors, évidemment, ce genre d'information, c'est très utile dans le problème de reconstitution de champs. On veut reconstituer des champs météorologiques à partir d'observations. Il est évident que ce genre d'information est à utiliser. Hein. Bon. Autre exemple. Alors maintenant, c'est encore une fonction d'autocorrélation, non plus sur les champs eux-mêmes, mais sur les erreurs dans une prévision numérique de la prévision de surface entre une station de référence, qui est Stockholm, et puis les régions voisines. Alors, vous voyez que c'est alors 1 au maximum. La corrélation est à peu près isotrope, les lignes des corrélations sont finalement à peu près des cercles, et la distance de corrélation, c'est, ben, vous voyez, on arrive en 0,1 ici, la Grande-Bretagne, ça fait un peu plus de 1 000 km nord-sud, la distance de corrélation, c'est entre 1 000 et 1 000 et 2 000 km, c'est-à-dire typiquement la même que pour les champs de base. Mais alors ça, c'est les corrélations dans les erreurs de prévision. Et comme je vous le montrerai, c'est ça au fond qui est le plus important dans le contexte de la simulation. La corrélation, les connaissances qu'on va voir, c'est les connaissances entre les erreurs de prévision, pas tellement sur les champs de base. Bon, alors, une fonction de covariance, c'est donc une fonction de deux points dans l'espace physique. Oui?
Par exemple, la corrélation entre le potentiel et U ou V,
Oui?
pourrait quelque chose.
Oui, alors ben, je vous présenterai tout à l'heure des figures. Vous pouvez vous amuser à deviner ce qu'elle peut être. C'est
ça.
Effectivement, c'est tout à fait assez naturel, tout à fait naturel de poser la question. Bon, alors une fonction de covariance, ça peut être ce qu'on appelle homogène. Ça veut dire qu'elle ne dépend que la distance vectorielle entre les deux points xi1 et xi2. Ça correspond à l'idée que les statistiques sont indépendantes, les statistiques de nos champs sont, les lois de probabilité sont invariantes par translation. On translate dans l'espace physique et on retrouve un autre point où les propriétés sont les mêmes, le point dont on partait. Si c'est le cas, la fonction de covariance est homogène. En plus d'être homogène, ça peut être isotrope, c'est-à-dire que ça dépend, pas seulement de la distance, mais même du module de la distance. Module de la distance. Alors ça, c'est bon, ça s'appelle isotrope. Alors sur la sphère, il n'y a pas de différence entre homogénéité et isotropie. L'isotropie correspond à la propriété au fait que les propriétés statistiques des champs sont invariants par rotation. Je prends un champ, bon, je prends les statistiques sur le champ, je prends les mêmes champs tournés d'un angle quelconque, les propriétés statistiques sont les mêmes. C'est à ça que ça correspond. Alors, je prends n points, n quelconque, xi1, xi2, xin, dans l'espace des états, des coefficients lambda 1 et lambda n. Je prends la quantité, je fais la même chose que j'avais fait tout à l'heure pour un vecteur. Sigma de lambda i, phi prime de xi. Je prends le carré de ce machin-là. Je prends la moyenne statistique. sigma de lambda i lambda j, c phi, oui, c phi, c'est la fonction de covariance, c phi de xi1, xi, xi, j. C'est positif ou nul, nécessairement, puisque c'est la moyenne d'une quantité positive. Ça veut dire qu'une fonction de covariance a la propriété que vous prenez n points, n quelconque, dans l'espace physique, dès le coefficient lambda i lambda j, vous prenez cette quantité-là, quel que soit les lambda i, quel que soit les n points, c'est positif ou nul. Alors ça, c'est très fort comme propriété. Et je vous dis en passant que dans le contexte de l'assimilation, on a beaucoup utilisé, on utilise un peu moins maintenant, mais on a beaucoup utilisé les fonctions de covariance, et les gens aimaient bien prendre une fonction de covariance pour une expression analytique, une fonction toute connue. Et il y a des tas de gens qui sont tombés dans le piège, qu'ils ont pris une fonction de covariance qui n'avait pas cette propriété et qu'ils ont obtenu des résultats absurdes. C'est un piège classique dans lequel sont tombés beaucoup de gens. Alors, cette propriété-là, je dirais que c'est des fonctions de type positif ou des fonctions définies positives. Certaines personnes les appellent fonctions définies positives. Hein. C'est une classe de fonctions tout à fait particulière. Hein. Une fonction de covariance est de ce type-là, et n'importe quelle fonction qui appartient à ce type-là peut être fonction de covariance dans un processus aléatoire. Bon. Moi, je dirais des fonctions du type positif. Ça ne veut pas dire qu'elles sont positives. Hein. Il y a des fonctions qui sont positives partout, mais qui ne sont pas de type positif. Et il y a des fonctions de type positif, qui ne, au sens que je dis, qui ne sont pas positives. Par exemple, sur le cercle, la fonction définie par C de Xi1, Xi2, où Xi1 et Xi2, ce sont deux points sur le cercle, égale cosinus de Xi1 moins Xi2, bon, c'est une fonction de covariance, bien qu'évidemment, ça prenne des valeurs positives et négatives. C'est la fonction de covariance de la fonction aléatoire de cosinus xi puis alpha, où alpha est distribué uniformément entre 0 et 2 pi. Je prends une sinusoïde sur 0 de pi, je lui mets des, je la fais varier aléatoirement, je la translate aléatoirement, j'ai donc une fonction aléatoire qui dépend de la translation. Eh bien, la fonction de covariance de cette fonction aléatoire, c'est cosinus de xi1 moins xi2. Le calcul est élémentaire, qui prend des valeurs négatives. En particulier, il prend la valeur moins 1 quand xi1 et xi2 sont diamétralement opposés. Donc, les fonctions de type positif, c'est une classe de fonctions tout à fait particulière qui sont les fonctions de covariance. Alors, par exemple, oui, ben, alors que si je prends un développement de Fourier sur le cercle fini au nombre d'onde k, donc somme de phi k exponentielle de xi, c'est le point considéré, k c'est le nombre d'onde, et phi k c'est un coefficient. Je suppose que les phi k et les phi k, je suppose que les phi k bon, c'est des coefficients de Fourier, c'est-à-dire que ce sont des nombres complexes de la forme rho k exponentielle i de θ k, rho k réel. Je suppose que les modules, les rho k et les θ k, sont aléatoires. Que les θ k sont distribués uniformément entre 0 et 2 pi, mais indépendamment les uns des autres. Que les rho k sont ce qu'ils sont, ils sont aléatoires, peut-être gaussiens par exemple, non, ils sont aléatoires. Bon. Et puis je prends que tout ce monde-là est aléatoire. Et puis je prends donc phi k, c'est une fonction dont le développement de Fourier, les coefficients des différents de Fourier sont aléatoires. Ben je prends la fonction de corrélation de tout ça, donc des phases et des amplitudes θ, θk et ρk indépendantes. Et bien la fonction de covariance de tout ça, bon, je fais le calcul, c'est pas compliqué, c'est égal à une somme de cosinus de la forme k xi1 moins xi2 multiplié par un coefficient positif. Ce sont des cosinus de la forme k xi1 moins xi2 multiplié par des coefficients positifs. Ça, c'est une fonction de covariance. De ce processus très simple, de cette fonction dont les coefficients de Fourier sont aléatoires et indépendants. Bon. Alors, il y a un théorème, qui s'appelle le théorème de Borchner-Kinchin, que les fonctions homogènes c'est de xi 1, xi 2 homogène, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent que de la distance vectorielle xi 1, xi 2 sur Rn, sont de type positif si et seulement si la transformée de Fourier de H est réelle et positive. Donc, spectre de Fourier réel positif veut dire, fonction de type positif. Et puis, ben, par exemple, la fonction qui est définie dans Rn par, ce que j'appelle l'exponentielle quadratique, exponentielle de moins x1 moins xi1 moins xi2 transposé b moins 1 xi1 moins xi2, où b est symétrique défini positif. On a envie de dire gaussienne, mais je ne dirais pas gaussienne parce que je remplacerais le mot gaussien pour des densités de probabilité. Là, ce n'est pas une densité de probabilité, pas nécessairement. Et bien, cette fonction-là, son spectre de Fourier est aussi une gaussienne, donc il est réel et positif. Donc cette fonction est de type positif. Une exponentielle quadratique est de type positif. Bon, et puis il y en a d'autres. Et alors sur le cercle, on a un résultat analogue en fonction des polynômes de Legendre, je ne le dirai pas, mais on a un résultat analogue. Bon, donc si on veut définir des fonctions de type positif à la surface de la sphère, eh bien, c'est bon de savoir ces choses-là. Bon, alors je répète, là, je l'ai dit, les définitions des variables gaussiennes, unidimensionnelles, multidimensionnelles. Bon, ça, c'est les deux densités de probabilité, je vous les ai données, exponentielles de moins en moins. Donc, je ne le redonne pas, ça, je le donne pas. Alors, je prends quelque chose. Je prends un couple de variables, x, de vecteurs, x, y, qui forment un vecteur z. Alors évidemment, avec mon système de notation, comme je prends des valeurs colonnes, je dois écrire ici x transposé pour avoir ligne, y transposé pour avoir un vecteur ligne, et puis le transposé pour avoir un vecteur colonne. Ça peut paraître alambiqué, mais si on veut être cohérent, il faut. Et encore une fois, dans les formules, par exemple, du filtre de Kalman, ben, il faudra être cohérent. Alors, je prends que ce couple a une distribution gaussienne de moyennement nulle et de matrice de covariance C. Donc, C est une matrice symétrique définie positive. Et la densité de probabilité est proportionnelle à exponentielle de moins 1/2 Z transposé, C moins Z moins 1, Z. Z est composé de matrices de sous-matrices de covariance CXX, CY, CYX, CYZ. Ce sont les matrices de covariance entre X et Y. Bon, si X et Y sont décorrélés, C de XY égale 0 et C de YX égale 0. Donc C moins 1, c'est ça. Et du coup, l'expression de Z moins 1, Z transposé, C de moins 1, Z, ça devient X transposé, CXX moins 1, X, plus Y transposé, C moins 1, X. Et du coup, les densités de probabilité exponentielle de A plus B égale exponentielle de A multipliée par exponentielle de B, les densités de probabilité se multiplient. Donc, les deux variables X et Y sont indépendantes. Elles sont plus décorrélées. Donc, je vous disais tout à l'heure que l'indépendance était une propriété plus forte que la décorrélation. C'est vrai en général, mais dans le cas où il s'agit de variables, de couples de variables, qui globalement sont gaussiennes, il ne suffit pas que chacune des deux soit gaussienne, hein, qui globalement sont gaussiennes, alors la décorrélation entraîne l'indépendance. Oui. Pardon?
Les termes croisés x, y, sont nuls.
S'ils sont décorrélés, les termes croisés x, y sont nuls.
Ah oui.
S'ils sont décorrélés, je reviens là-dessus, s'ils sont décorrélés, alors, s'ils sont dans les quatre termes de la matrice C, s'ils sont décorrélés, ben les matrices de covariance non diagonales sont nulles. C'est ça qui entraîne qu'il y a indépendance. Mais c'est une propriété des variables gaussiennes. Comme vous le savez peut-être, les variables gaussiennes ont des propriétés tout à fait particulières et c'en est une. Bon, alors ça, c'était pour vous rappeler un certain nombre de notions de base et aussi vous peut-être vous donner, je ne sais pas si vous êtes très, très familier, par exemple, avec la notion de fonction de covariance et avec le théorème de Bochner-Hinson. Mais est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pardon? Ah, j'entends que la variable gaussienne. Alors, effectivement, c'est. Non. C'est que le couple XY a une densité une distribution de probabilité gaussienne. Le couple dans sa totalité. En particulier, pour moyenne de 0, ça c'est. Et une matrice de convergence, c'est-à-dire que la densité de probabilité du couple de Z, constitué de X et de Y, est proportionnel à exponentielle de moins 1,5 z transposé, c'est moins 1 z, c'est pour la totalité. C'est ça que je veux dire quand je dis globalement gaussienne. Ça veut pas dire que c'est plus que de supposer que x et y sont individuellement gaussiennes. Si je prends tout bête, je prends une variable gaussienne x, je prends la variable gaussienne y égale moins x. Avec plus ou non, pas plus, pas plus, plus ou moins y égale plus ou moins x avec une probabilité 1,5. Bon, ce sont deux variables gaussiennes. Elles sont évidemment décorrélées, puisque que comme sinus, cosinus, moins décorrélées, elles ne sont pas indépendantes, puisque je connais l'une, je connais le module de l'autre. Donc, elles ne sont pas indépendantes. Et là, ça ne s'applique pas. Elles ne sont pas indépendantes, bien qu'elles soient décorrélées. Mais le couple, en tant que couple, n'est pas gaussien. C'est ça que je voulais dire. Ça que je voulais dire. D'autres questions? Bon, alors, quelle heure est-il? J'arrête. Bon, je peux prendre mon. 11 h. D'accord, très bien. Bon, alors maintenant, je passe un peu à autre chose, mais où j'utiliserai ces notions, à ce qu'on appelle l'interpolation optimale. Bon. Alors, je prends la situation suivante. Un jour, je fais des mesures dans des stations météorologiques, une certaine quantité, la température. Je fais des mesures à des points xi1, xi2, xi3, etc. Et puis, je veux connaître la valeur du même champ dans un point X quelconque, dans un point XI quelconque. Alors, je considère ça comme une variable aléatoire, une réalisation particulière de variable aléatoire, dont je suppose que je connais la distribution de probabilité. Et je veux déterminer la valeur de la quantité X, c'est-à-dire phi de X, au point XI. Je veux connaître la valeur du champ. J'ai des mesures dans un certain nombre de points et je veux connaître la valeur du champ en un point donné. Je n'ai pas de mesure. C'est évidemment bon, un problème évident en météorologie élémentaire. Et ça a été aussi évidemment le problème dès qu'on a fait de la prévision météorologique numérique. Je vous parlerai la fois prochaine de l'histoire, un peu de l'histoire de la prévision météorologique numérique. Dès qu'on a fait de la prévision numérique, on a eu ce problème-là. On avait des stations de mesure. Avant même de parler d'assimilation, on avait des stations de mesure et on voulait, à partir des mesures effectuées dans des stations, et obtenir des valeurs au point de grille d'un modèle, parce que le modèle était construit sur une grille. Bon. Problème élémentaire. Alors, donc j'ai des observations en P stations. Alors j'utiliserai des notations. Quand j'aurai des données, je leur donnerai en général des mesures, je leur donnerai. Oui, enfin, je serai plus présent en P. Alors, en chaque point J, XIJ, j'ai une mesure YJ égale phi de XIJ plus epsilon J, qui forme un vecteur Y. Et alors, je suppose que je connais la distribution de probabilité de la fonction aléatoire phi. Et la distribution de probabilité des erreurs de mesure epsilon. Donc j'ai les deux. Bon, alors je vais estimer phi de xi on peut estimer x égale phi de xi au point xi sous la forme xa égale alpha plus sigma de bêta j, c'est-à-dire alpha plus bêta transposé y, où bêta est le vecteur colonne coefficient bêta j. Et je vais déterminer alpha et les bêta j de façon à ce que l'erreur quadratique x moins xa au carré pris en moyenne statistique soit minimum. Vraiment élémentaire, hein. Minimiser une forme quadratique. Hein, c'est pas... Alors, j'ai une petite notion. Les données estimées seront appelées XA, soit pour qui veut dire analyse ou assimilation. Ça vient de ce que. Oui, mais je dirais un peu plus. Enfin, ça vient de analyse ou assimilation. J'expliquerai pourquoi analyse et pourquoi assimilation. Bon, donc je vais déterminer l'inconnu sous la forme alpha plus sigma de bêta j. Bon, alors, si E de xa moins xa au carré est minimum, ça veut dire que E de xa moins xa est égal à 0. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si j'ajoute la moyenne à une constante multiplicative, à une constante additive près, la moyenne du carré d'une variable est minimum quand la moyenne de la variable est nulle. Donc, si ceci est minimum, ça veut dire que E, la moyenne de x moins xa, que xa n'est pas biaisé, en quelque sorte. Alors, ça veut dire que xa égale 0, E de xa égale alpha plus sigma de bêta j, y, j. Ça veut dire que E de xa, xa moins E de x égale sigma de j, y, j moins E de j. Ça veut dire que les calculs sont à faire sur les variables centrées. C'est élémentaire, mais je le dis. Les calculs sont à faire seuls. Ce qui veut dire que je dois d'abord, comme si pour connaître, les moyennes de x et les moyennes des yj. Hein, je dois connaître ça. J'ai dit que je connaissais les distributions de probabilité. Des... Et puis, alors, x' a, x1 moins xi, est la combinaison linéaire des y' j, y', qui minimise la distance à x', qui est égale à x moins y de x. Donc, l'espace des y' j, encore vous faire un dessin, l'espace des y' j, c'est sous l'espace, j'ai le point x' ici, je cherche le point de x', le point de l'espace des y' j qui est le plus proche de x'. C'est la projection orthogonale de x' sur l'espace engendré par les y' j. J'ai dit qu'on avait une géométrie derrière ça. C'est la projection orthogonale au sens de la covariance. Je peux aussi développer E de xa moins xa au carré en fonction des bêtas, et puis prendre la dérivée, dire que la dérivée c'est nul par rapport à chacun des bêtas. Hein, c'est la même chose. C'est une projection orthogonale. Donc c'est quand même... Alors je prends la condition d'orthogonalité, c'est-à-dire que x' moins x' a est décorrélé de chacun des y' j. Pour j égale 1p, ben j'écris ça et j'obtiens un système de coordonnées linéaires, un système un système d'équations linéaires, dont l'inconnu est bêta, les poids affectés aux différentes données. La matrice, c'est 2C de Y, Y, la matrice de covariance des observations entre elles. Et le membre de droite, c'est le vecteur de covariance entre le champ. Entre les variables, entre les observations y et le champ que je vais reconstituer. Les covariances apparaissent tout naturellement, parce que j'ai E de x' y' j et E de bêta j, elles apparaissent immédiatement, les covariances apparaissent naturellement dans la condition d'orthogonalité. Oui. Parler exprimé corrélé avec. D'accord. Voilà pourquoi j'écris la non-corrélation. Parce que j'ai écrit que x' moins x' a est orthogonal à l'espace engendré par les y' j. Donc c'est orthogonal, donc c'est décorrélé avec chacun des y' j. Puisque dans ce contexte, décorrélation et orthogonalité, c'est la même chose. Donc j'écris simplement que x' moins x' a qui appartient à l'espace engendré par les y' j, est orthogonal à chacun des y' j. Vous obtiendrez la même chose en disant simplement que, en développant le carré et puis en décrivant qui la dérivée par rapport à chacun des pédagogies est nulle. Hein, ce sera la même chose. Mais là, j'utilise explicitement le vocabulaire géométrique associé à la notion de covariance. Donc c'est ça. Donc les poids à affecter aux différentes données sont donnés par un système linéaire dont la matrice est la matrice de covariance des observations entre elles, des données entre elles, et le membre de droite, c'est le vecteur des covariances entre les données et la quantité que je vais reconstituer. Question? Bon, alors ça donne l'explication que je reviens aux variables non centrées. J'obtiens ici, et j'ai que XA, l'état estimé, c'est la moyenne de X, plus une quantité qui est une combinaison linéaire des Y prime J, c'est-à-dire le vecteur Y moins E de Y. Le Y, maintenant, c'est le vecteur des observations. Ce vecteur est multiplié à gauche par C de Y inverse, ça vient de la solution du système linéaire. J'ai bêta égale bêta transposé égale C de XY, C de Y moins 1, ça c'est la solution du système linéaire que j'étais ici. J'ai bêta égale C de YX, C de Y moins 1. Bêta transposé, c'est C de XY, C de Y moins 1. Alpha, du coup, ça devient C E de X moins bêta transposé E de Y. Et XA est égal à E de X plus une quantité qui est la matrice CY moins 1, CY moins 1, multipliée à droite par le vecteur des observations centrées et à gauche par le vecteur horizontal des corrélations entre X et Y. Oui.
Bêta, il est transposé quand on résout le système linéaire.
Parce que il est transposé parce que j'écris, c'est la façon dont je l'écris, c'est la façon dont j'écris. C'est mécanique, j'ai dit que je cherche, la solution sera XA égale alpha plus bêta transposé Y. C'est nécessaire de la convention ligne-colonne quand j'écris des vecteurs et des matrices. Ce n'est pas autre chose. C'est à partir du moment où je vais utiliser ces équations-là, je vais écrire des équations en termes condensés, en termes de vecteurs et de matrices, il faut que je fasse une convention claire sur la manière dont je fais les produits. Et si je fais la convention ligne-colonne que vous avez tous appris, eh ben, je dois ici prendre bêta transposé. Je dois prendre bêta transposé multiplié par la Y. Et bêta transposé, ça devient, mais je reviens ici, j'ai bêta égale C de Y moins 1 multiplié par C de YX. Quand je prends de bêta transposé, ben je prends le produit des transposés en sens inverse. Bon, effectivement, je n'ai pas rappelé que le transposé d'un produit de vecteurs et de matrices, c'est le produit des transposés pris en sens inverse. Bon. D'accord. Bon, on ne pourra. Le filtre de Kalman, que je vous présenterai en détail la fois prochaine, on peut pas écrire, on peut pas écrire, on peut pas l'écrire si on ne fait pas ces conventions. On dit par exemple, je vous signale là, que. La notation systématique en termes de matrice vecteur a été en fait inventée par les gens qui ont fait de l'analyse fonctionnelle, qui se sont intéressés aux fonctions en tant qu'espace d'espace, en tant qu'élément d'espace vectoriel. Les mathématiciens qui utilisaient des systèmes de dimension finie n'utilisaient pas de matrice. On dit qu'Henri Poincaré n'a jamais utilisé dans ses œuvres, je peux vérifier, n'a jamais été utilisé dans ses œuvres les notions de vecteur en tant que vecteur et de matrice en tant que matrice. Je ne sais pas comment il aurait pu faire les fils de Kalman, mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais tout ce que je dis, donc, c'est simplement une question de notation cohérente. Alors, l'estimé est non biaisé, ça, je l'ai dit. Et alors, il minimise l'erreur quadratique moyenne statistique de x moins x1 au carré. Et ça, la moyenne quadratique, je reviens à mon dessin, désolé pour ceux qui. Mais j'ai x prime moins x1, c'est la même chose que x moins x1, puisque ça ne dépend que de la moyenne de x. Ça, G1, ça c'est l'origine. J'ai un triangle rectangle, théorème de Pythagore, le carré x prime moins x prime a au carré, un carré de l'angle droit, est égal au carré d'hypoténuse, e de x prime carré, moins le carré de l'autre de l'autre moins le carré de l'autre côté. C'est ce que j'écris là. Le carré, ça c'est x prime a, donc moins le carré d'x prime a. Le carré de l'erreur est égal au carré de x prime moins le carré de x prime a. C'est pas si compliqué que ça. Et ça veut dire que, on va dire, en prenant les matrices de covariance, que la moyenne, l'erreur sur l'estimation, c'est la matrice de covariance C de xx moins C de xy, C de yy moins 1, C de yx. Alors là, je change C de xy et C de yx. Là, C de xy, c'est un vecteur colonne, tandis que C de yx, c'est un vecteur ligne. Mais c'est bon. Et alors, pour faire ce calcul, je dois connaître, il suffit, je dois, mais il suffit de connaître la moyenne de toutes les quantités considérées et les covariances entre ces quantités considérées. Les covariances entre les observations et les covariances entre les observations et les quantités que je veux reconstituer. Il suffit de. Bon, alors. Mais maintenant, je reviens à la forme que j'ai donnée. Jusqu'à présent, les x et y, ça pourrait être absolument n'importe quoi. Hein? Je pourrais estimer, je ne sais pas, le cours de la bourse à partir des éclipses des satellites de Jupiter. Hein. Les données, les observations grecques, c'est les observations des satellites de Jupiter, les occultations. X, ce que je veux constituer, c'est le cours de la bourse. J'ai fait des statistiques sur les deux. Je peux utiliser cette formule-là. Ce n'est pas forcément très utile. Je peux l'utiliser.
Absolument aucun lien doit y avoir. Pardon? S'il n'y a absolument aucun lien entre Y, par les variables mesurées, et notre variable qu'on cherche.
Oui, ça veut dire que dans ma notation, c en xy est égal à 0. C'est ça que ça veut dire. C de xy est égal à 0. Bon, je reviens. Bon, alors, évidemment, j'ai un système de notation qui peut ne pas être tout à fait. Mais C de xy est égal à 0, ça veut dire que ici, la covariance de x prime et de y prime est égale à 0. Parce que je vous ai dit que la matrice de covariance pourrait être utilisée. Ça, c'est C de xy. Et je reviens ici. Si C de xy est égal à 0, ce que vous dites, eh bien, l'erreur, c'est C de xx. Ça ne m'apporte rien. Et le chat estimé, le sang estimé, c'est. Alors là, C de XY est égal à 0. Deuxième équation, C de XY est égal à 0. Donc le champ estimé, c'est la moyenne de X. C'est ce qui se passe quand il n'y a aucune corrélation entre. Alors, aucune corrélation. Hein. Si tout bêtement, j'utilise cette formule-là pour estimer sinus alpha, où alpha est un angle aléatoire à partir de cosinus alpha, si je fais ça. Ça ne me donnera pas le résultat réel, c'est-à-dire que sinus alpha égale plus ou moins la racine carrée de 1 moins cosinus carré alpha. Ça ne me donnera pas. Ça me donnera simplement, ça me donnera la valeur 0 pour sinus de alpha, parce que sinus de alpha et cosinus de alpha sont décorrélés. Donc, c'est dans la limite, cette approche est dans la limite de ce que permet la connaissance des corrélations. Alors, question encore? Non, si vous avez des questions, faites-les, hein, parce que les notations sont peut-être un peu indigestes, mais c'est pas compliqué au total. Donc,
Il faut avoir des connaissances qui ont les mêmes que tout. Il faut connaître le champ moyen et il faut connaître la corrélation entre la valeur du champ et la valeur du champ.
Et ça, on peut le faire si on a une distribution par exemple la spatiale.
Si on connaît les statistiques des champs, soit par accumulation d'observations, soit par des consignes d'observation théorique, soit par combinaison de deux, là, on est. Mais il faut l'avoir, effectivement, il faut connaître les statistiques. Alors, je prends le cas d'une observation unique. Bon, j'ai donc P égale 1 et au point 1, j'ai Y1 égale phi de XX1 plus epsilon 1. Maintenant, je remets ma place dans un contexte, observation physique plus une erreur d'observation. Et je vais estimer X égale phi de xi en un point xi quelconque. Bon, alors j'ai C de Y avec bêta égale C de YX. C de Y, c'est la corrélation de Y. Alors je dis que c'est. Ah oui, là je n'ai pas dit quelque chose. Ah oui, tiens, là, je reprends des diapos et puis je les remonte. Alors de temps en temps, il y a des petites incohérences. Oui, si je suppose que le champ phi est décorrélé des erreurs d'observation, alors la covariance, la variance de Y1, ce dont je donne, c'est la covariance, la fonction C phi de xi1, xi1 au point xi1, plus la variance de l'erreur d'observation. Je n'ai pas dit que R était la variance de l'erreur d'observation. Effectivement, ça c'est bon, c'est moi, je corrige récemment. Quant à C de YX, c'est la fonction de covariance entre le point xi où je vais reconstituer les champs et le point xi1 où j'ai la mesure. Alors je mets ici bêta et je trouve que XA égale. Ah oui, bon, alors, effectivement, autre chose. Oui, excusez-moi. J'ai aussi supposé implicitement, supposé que la moyenne des champs était nulle. C'est-à-dire que je me mets simplement par rapport à la moyenne des champs. Et ça se trouve que XA égale C de phi de xi et xi1, c'est-à-dire la covariance entre le point xi et le point xi1, sur la covariance sur C de, c'est-à-dire C de phi de xi1, xi1, plus R. La variance de l'erreur de la variance de l'observation multipliée par la valeur observée. C'est ça que ça veut dire. Alors, si j'ai la valeur observée au point xi1, y1, valeur observée, au point xi égale xi1, j'obtiens c phi de xi1, xi1 sur c phi de xi1, xi1 plus r, multiplié par y1. Donc c'est quelque chose qui est compris entre 0 et y1, parce que tout ça c'est positif, hein. C phi de xi1, xi1 c'est positif, corrélation avec elle-même. Donc j'obtiens une moyenne, donc j'obtiens quelque chose qui sera égal, si R est égal à 0, pas d'erreur d'observation, ce sera égal à Y1. Et si à l'inverse, R est très grand, le dénominateur l'emportera, ça sera très petit. Ce que j'obtiens au point Y1, c'est une moyenne pondérée entre la mesure et la moyenne du champ en ce point, pondérée par les variances d'incertitude associées. Tout à fait naturel. À partir du moment où j'ai mis un critère d'optimisation, il faut bien que ça soit là que je trouve. Si l'erreur d'observation est petite, je trouve qu'une estimation très proche de l'observation. Et si l'erreur d'observation est grande, je trouve une estimation très proche de la moyenne du champ. Et puis maintenant, je prends xi n'importe où. Vous voyez que y1 sur c phi de xi1, xi1 plus r, c'est indépendant du point où je fais l'estimation. Donc les variations du champ estimé en fonction du point d'estimation vont suivre exactement la fonction de covariance entre xi et xi1. C'est-à-dire que l'observation y1 arrive
avec une fonction d'influence spatiale qui est exactement la fonction de covariance entre le point d'observation et le point où je reconstitue les champs. Vous voyez que les fonctions de covariance s'introduisent tout naturellement dans le problème. Alors, par exemple, je vous ai montré ça tout à l'heure. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Fonction d'autocorrélation de l'erreur de prévision, de la pression au niveau de l'erreur de prévision à 12 heures, de la pression de surface entre une station à Stockholm et le point voisin. Si, et c'est ça qui fait la simulation, qui fait l'analyse, j'ai fait une prévision. Je fais une observation à Stockholm. Il y a une erreur avec la prévision. Eh bien, l'analyse d'interpolation optimale va me produire au point d'observation une moyenne pondérée entre la valeur que j'avais prévue et la valeur observée, pondérée suivant les variances respectives de ces deux quantités. Et puis, ce point, cette valeur, à partir du point d'observation, l'interpolation optimale propagera une correction en tous les points d'espace, correction dont les variations spatiales sont exactement les fonctions de covariance entre le point d'observation et le point que je reconstitue. Oui.
C'est-à-dire que cette méthode, elle marchera pas si on a des valeurs qui peuvent devenir extrêmes ou s'éloigner vraiment de la moyenne.
Alors, effectivement, c'est statistique. C'est-à-dire que si on a des valeurs extrêmes, l'algorithme, si on l'utilise comme ça, produira des choses qui prennent quand même en compte les valeurs extrêmes. Si la valeur observée Y1 est extrême, ça produira quand même et si elle est considérée comme assez précise, ça produira quand même des valeurs extrêmes. Mais les valeurs extrêmes seront peut-être assez peu probables. Hein, la méthode vaut les hypothèses qu'on y a introduites. Bon, alors maintenant, deux observations voisines, au point Xi1 et Xi2. Alors, de la forme YG égale phi de EG plus epsilon JG égale 1 à 2, au point Xi1 et Xi2, et je vais estimer le champ en un point Xi, D. Alors, je regarderai le cas où delta, la distance entre les deux observations, est petite de la distance. Alors, je suppose que la fonction de covariance est homogène. C'est-à-dire que C de phi, le champ de base, la fonction de covariance entre Qi1, deux points Qi1 et Qi2, est égale à une fonction gamma de la différence de la distance Qi1 moins Qi2. Pour s'appeler avec quelqu'un. Alors, j'écris le système linéaire pour les coefficients bêta. Alors, j'obtiens en haut, en haut à gauche, la covariance, en fait la variance de l'observation Y1, gamma de 0, le point 0, plus R, variance de l'erreur d'observation. En bas à droite, même chose. À l'autre point, j'ai la même chose, même erreur. Et puis, dans les termes en dehors de la diagonale, gamma, alors si les erreurs d'observation sont décorrélées, ben, elles n'interviennent pas, il ne reste que la corrélation du champ de base, gamma de 2 delta. 2 delta, c'est la distance entre les deux observations. Égale, dans le membre de droite, la covariance entre le champ au point d'estimation et le champ observé. Donc, ça sera gamma de D plus de delta, de D plus delta, gamma de D plus delta pour le point Xi1, et gamma de D moins delta pour le point Xi2. Là, c'est les bêtas. C'est les coefficients à attribuer aux deux mesures en Xi1 et Xi2 dans l'estimation du champ au point Xi. Pardon? R, bon, c'est la variance de l'erreur d'observation. Effectivement, enfin, je vous l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit, ça, il faudra que je corrige ça, mais sur ma transparence, ce n'est pas écrit. R, c'est la variance de l'erreur d'observation. Oui.
C'est une hypothèse viable.
Ah oui, dans beaucoup de cas, c'est plus. Non, dans beaucoup de cas, c'est plus difficile. Oui.
Parce qu'en fait, moi, les masques photovoltaïques comme ça, je les vois un peu comme des lois physiques, enfin, des tendances physiques en fonction de la région où on se situe, par exemple. Je ne sais pas si c'est vrai. Par exemple, si on a une matrice de Pascal, ça pense que les matrices de Colorant, ce soit les mêmes aux moyennes latitudes tropiques, par
Ah
exemple.
non, les matières de provenance peuvent donc homogène, c'est pour une région, on a déjà fait
Ah, d'accord.
une région avec une autre. Non, mais effectivement, bon, alors évidemment, dans les systèmes complets, il faut prendre en compte ces variations en fonction de la région, tout en gardant le caractère défini positif des fonctions de covariance. Donc, je ne vais pas entrer. D'accord. Oui. Bon. Alors, ceci me donne le système linéaire dont la solution sont les deux poids bêta 1 et bêta 2 à attribuer aux deux observations. Alors, je regarde simplement le poids bêta 1 plus bêta 2, mais il est égal à gamma de d plus delta plus gamma de d moins delta sur gamma de 0 plus gamma de 2 delta plus R. Et puis je prends ça quand delta devient petit devant d, là, quand les deux observations sont proches, enfin que je vais estimer le champ en un point éloigné des observations, et j'obtiendrai que bêta 1 plus bêta 2 égale 2 gamma de d sur 2 gamma de 0 plus r, c'est-à-dire gamma de d sur gamma de 0 plus r sur 2. Or ça, en fonction de ce que je viens vous dire, de ce que je vous ai dit ici, c'est simplement le poids affecté à une observation unique qui serait située en mi-chemin entre les deux observations, mais qui serait une invariance des observations divisée par deux. On sait que si on prend deux estimations, deux estimations bruitées d'une même quantité, si les bruits sont indépendants, si on prend la somme, on obtient une chose qui est une variance deux fois moindre. Et si on prend n estimations et qu'on fait la moyenne des n estimations, des n mesures, on obtient quelque chose dont la variance d'erreur associée est n fois plus petite que la variance si je prends 100 moyenne de 100 réalisations dépendantes d'une 100 mesures indépendantes d'une même quantité, je prends la moyenne, je divise l'erreur par racine de 100 égale 10. Ben, c'est exactement ce voilà. Donc le système automatiquement est capable de prendre en compte la proximité de deux observations pour leur donner globalement un poids qu'aurait une observation unique, mais plus précise. C'est une conséquence immédiate de l'optimisation, du principe d'optimisation que j'ai pris. Il faut que ce soit ça. Si ce n'était pas ça, mon principe d'optimisation. Mais alors, ça résout le problème qui a préoccupé des gens. J'ai des observations denses d'une certaine région. Je vais estimer les champs là, mais alors, puis si c'est dense, il faut que je leur donne des points plus petits, mais comment? Voilà comment il faut faire. Bon. Alors, un exemple numérique simple. C'est un exemple que j'ai fait longtemps avec. Bon, j'ai pris un cercle, j'ai pris une fonction aléatoire sur ce cercle, avec des composantes de Fourier. Des composantes de Fourier et de phases indépendantes distribuées uniformément à zéro et puis des modules, des coefficients, des modules aléatoires, bon, plus petits pour les grandes longueurs d'onde, pour les grands vecteurs d'onde que pour les petits, plus petits pour les petites longueurs d'onde que pour les grandes longueurs d'onde. Et ça, c'est la fonction de covariance associée. Alors, la fonction de covariance, qui dans ce cas-là est homogène, ne dépend que de distance. À distance zéro, elle est maximum. Et puis elle décroît. Au bout de deux unités, vous avez des unités marquées, elle devient zéro. Puis elle devient négative, puis positive, puis négative. Et puis au bout de ça, elle revient par périodicité de l'autre côté. Donc une fonction positive à petite distance, négative indépendante, et puis ensuite, l'autre côté, correctement. Alors, avec cette fonction, j'ai produit une réalisation de la fonction aléatoire. C'est la ligne pleine. Une réalisation en donnant à mes coefficients, mes phases et amplitudes aléatoires, des valeurs suivant la loi que j'avais décidée. Puis j'ai fait des mesures là-dessus. Je fais semblant de faire des mesures. C'est les points ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesures. Bon, vous voyez que les mesures sont assez distantes par rapport au... C'est-à-dire que les mesures ne représentent pas, dans ce cas-là, les fluctuations spatiales détaillées du champ. Enfin, les mesures disponibles. J'applique là-dessus l'algorithme d'interpolation optimale. J'obtiens, alors je suppose que les mesures n'ont pas d'erreur, elles sont exactes. Et les courbes tiretées, c'est le champ reconstitué, qui passe exactement par les valeurs observées, puisque je supposais que les valeurs observées sont nulles. Et puis ça, c'est l'erreur quadratique, moyenne. Non, l'erreur standard, l'erreur standard. Alors, au point d'observation, il est nul. Quand je m'éloigne des points d'observation, elle grandit. À une distance de 2, c'est quasiment l'écart standard du champ de base, qui est représenté par la ligne entièreté. Quand je vais un peu plus loin, ça diminue un peu, parce que un peu plus loin, la corrélation est négative. Et une corrélation négative est tout aussi informative qu'une corrélation positive. Ce qui compte, c'est la corrélation. Ça devient négatif. Et puis ensuite, comme je me rapproche du point de grille suivant, du point d'observation suivant, j'ai la même chose par symétrie. Et ensuite, entre tous les intervalles entre les observations, j'obtiens la même chose par translation. Donc voilà ce que ça me donne dans ce cas-là, cette méthode. Alors on voit que le champ est beaucoup plus lisse, le champ reconstitué est beaucoup plus lisse que le champ réel. Ben ça vient de ce que la distance entre les points d'observation est relativement grande devant la distance de corrélation du champ. Donc j'ai un échantillonnage très lâche, vous voyez, qui ne me représente pas les détails de variation du champ. Ben, dans les conditions que j'ai supposées, c'est le mieux que je puisse faire. Alors cette courbe, j'ai déjà présentée plusieurs fois, et puis un jour, quelqu'un a dit, mais là, entre ces deux points, si vous faisiez une interpolation linéaire, vous atteindriez quelque chose de beaucoup plus proche du champ réel. J'ai dit oui, dans ce cas-là, mais statistiquement, non. Statistiquement, cette méthode-là est celle qui minimise la variance de l'erreur d'estimation. Mais pas forcément dans tous les cas particuliers, hein. C'est statistique. Alors, même chose. Maintenant, j'ai pris deux fois plus de points d'observation. Mais si. Alors, j'obtiens encore un champ reconstitué qui passe par les points d'observation, parce que je suis supposé que les erreurs d'observation sont nulles. Et puis, quand le champ, l'erreur sur le champ va se constituer, c'est zéro au point d'observation, ça grandit. À une distance 2 du point d'observation, c'est presque l'écart standard du champ de base, mais un petit peu moins, parce qu'il y a quand même une propagation de l'information du point d'observation. Et puis ensuite, par symétrie, c'est ça, et puis par translation, j'obtiens la même chose sur tout le champ. Alors maintenant, j'ai mis une erreur d'observation. Une erreur d'observation dont la variance est un quart de la variance de base du champ. Puis je fais la même chose. Alors là, le champ reconstitué ne passe plus par les valeurs observées, parce qu'on lui dit qu'il sait qu'il y a des erreurs d'observation. Donc, en chaque point, il prend un point pondéré, une moyenne pondérée, comme je le disais tout à l'heure, entre la valeur observée et l'incertitude sur le champ de base, pondérée par les variances correspondantes. Bon. Et alors, l'erreur de reconstitution, en le point d'observation, elle est un peu inférieure à 1,5, parce que l'écart standard, c'est 1,5. L'écart standard de l'erreur d'observation, c'est 1,5, l'écart standard du champ de base. Mais c'est un petit peu moins, parce qu'il y a quand même un peu de propagation d'information depuis les autres points. Et puis ça croît, devient à la distance 2 quasiment égale à l'erreur sur le champ de base. Ça diminue un peu, parce que la propagation de variation de corrélation négative, et puis ça redevient la même chose. Alors ici, vous avez 6 points d'observation, et entre les 6 points d'observation, vous voyez que le champ reconstitué est quelque part entre la valeur observée et le champ de base. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, dans le cas d'une observation unique, ce serait toujours le cas. Dans le cas d'observation multiple, ça n'est pas nécessairement le cas. En particulier, si vous avez deux valeurs différentes en des points voisins, mais nettement différentes du champ de base, eh bien le champ reconstitué passera entre ces deux valeurs. Il ne passera pas de la veille. Base, on a deux points voisins, deux valeurs voisines différentes. Vous êtes loin du champ de base, donc les erreurs sont petites, ben le champ reconstitué passera entre les deux. Donc il y a, ça sera pas pour chacun des points une valeur intermédiaire entre la valeur observée et la valeur de base. Pas nécessairement. Dans ce cas-là, ça l'est. Ne croyez pas que ce soit toujours vrai. Oui. Le champ de base, c'est le champ moyen qui contient la base. C'est le champ moyen.
Autant, ah oui, parce que la covariance, elle est relative à...
La covariance, c'est toujours par rapport à un écart. C'est toujours. C'est une semaine dans la covariance.
C'est une fonction.
Oui.
D'accord, c'est dans ce côté-là. Pour l'instant, il n'y a plus une reconstitution spatiale du champ. Il n'y a pas
Là,
de prédiction temporelle.
on n'a pas la production la production temporelle, la production temporelle. Quand ceci est étendu à la production, pas chaque vie, au plus pour le terme.
Ok, parce que juste avec l'optimisation de pardon, l'interpolation optimale, on peut avoir que une reconstitution du champ
Bon, quelque chose là, l'interpolation optimale peut aussi être étendue à quelques dimensions. À travers la dimension de plus, moi, dans une dimension temporelle, parce que là, j'ai pris une coordonnée spatiale, mais la même logique de s'étendre à des systèmes de coordonnées plus grands, et en particulier un système où il y a une coordonnée temporelle.
C'est possible d'avoir les matrices de covariance comme ça.
Alors, évidemment, il faudrait connaître les matrices. Dans ce cas-là, il faut connaître les matrices de covariance entre tout, y compris dans le temps.
Mais vu que c'est dynamique,
Alors, monsieur voilà. Ça viendra dans les confinements.
surtout, ça base sur le fait qu'on connaisse les
Ah oui, il faut connaître les covariances.
oui.
Il faut connaître les covariances. Ah, c'est sûr, hein, ou les supposer. Mais certains algorithmes de simulation ne parlent pas de covariance, mais font en fait introduisent des coefficients qui reviennent à faire des hypothèses implicites sur les covariances. Comme assez souvent dans la simulation, surtout au début, les gens mettaient de façon plus ou moins empirique définissaient des algorithmes de façon plus ou moins empirique, sans parler, sans être conscient d'estimations bayésiennes, mais en fait faisaient des hypothèses qui, dans une perspective bayésienne, faisait des choix qui, dans une perspective bayésienne, revenaient à faire des hypothèses statistiques. Bon, alors encore autre chose. Je reprends cette formule. XA égale E de X. Et que je vois. Tiens. Bon. XA égale E de X plus C de XY, C de Y transposé, Y moins degré. Alors je répète. C de XY C de XY, c'est la covariance. C'est un vecteur qui ici est encore un vecteur ligne. La covariance entre la valeur inconnue x et les observations y. Ici, c'est l'inverse de la matrice de covariance des y entre eux, et ça, c'est les valeurs de y le jour de la mesure. J'introduis le vecteur mu, qui est le vecteur si y moins 1, y moins 1 de y. Celui-ci. Ça, c'est indépendant de ce que je veux reconstituer. Ça ne dépend que des observations et des erreurs associées. Donc, XA égale E de X plus sigma de mu J multiplié par C de XY qui est la covariance entre x prime et y prime j. Ce qui veut dire que dans le cas que j'ai considéré avec non, en fin de compte, j'ai phi de xi au point A, et là, égale la moyenne, phi estimée au point xi est égale à la moyenne statistique climatologique de phi au point xi, plus la combinaison linéaire de C de phi entre xi et xi j. C'est-à-dire que la correction faite en un point d'espace est une combinaison linéaire de P fonctions, où P est le nombre d'observations, ces P fonctions étant la fonction de covariance entre le point d'observation considéré et les autres points. Alors j'ai dit, je reviens ici, est-ce que je l'ai ici? Non. Je reviens ici. Je vous ai dit ici qu'une observation unique en Stockholm aurait une fonction d'influence comme ceci. C'est logique, si. C'est évident. Si j'observe que la fonction, l'erreur de prévision sur la pression au sol, puisque c'est ça dont il s'agit, est positive et assez grande en Stockholm, il est logique de supposer qu'elle est positive et assez grande, peut-être pas aussi grande, mais qu'elle est aussi positive et assez grande dans les points situés à 10 ou 50 km de Stockholm. Donc de faire à ces autres, en ces points, une correction similaire à celle que je fais à Stockholm. Alors, c'est ce qu'on voit. Les champs reconstitués sont une combinaison linéaire de fonctions de base dont chacune est la fonction de covariance entre le point d'observation et le point courant. Ça se voit bien ici. Vous avez ici la fonction de covariance. Ça, en pureté, vous avez le point reconstitué. Ce point reconstitué, cette fonction de champ reconstitué, est une combinaison de six fonctions dont chacune est la fonction de covariance centrée au point d'observation. Ça se voit très bien en ce point-ci, où les oscillations du champ reconstitué sont les mêmes que celles de la fonction de covariance. Avec la tête en bas, parce que les valeurs observées veulent que ce jour-là, le coefficient correspondant est négatif. Et d'ailleurs, entre deux points d'observation, ça se voit ici, par exemple, très bien ici. Entre deux points d'observation ici, le champ reconstitué tend à revenir vers le champ de base. Parce que la fonction de covariance diminue et donc ramène vers le champ de base. C'est aussi le cas où vous avez des observations très lointaines. Vous avez des observations très lointaines. Ben, si vous utilisez cette méthode, les observations corrigeront les champs prévus dans leur voisinage, mais à très loin, elles ne mettront pas de très loin, elles n'auront aucun effet parce que la corrélation soit nulle. Ce qui répond à une question qui a été posée. J'en dis, les poids que je dois affecter aux observations doivent avoir une somme égale à 1. Et alors du coup, si on fait ça, si on a une observation très lointaine, j'ai une observation unique à Paris, sur un champ de température, et si je fais ça, le poids affecté à la corrélation de température à Moscou ou à New Delhi sera égal à 1 si le poids de la fonction doit être égal à 1, ce qui est physiquement absurde. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire parce qu'on prend en compte le champ. Une première estimation du champ de base. Et si vous prenez la première estimation du champ de base, eh ben, est-ce que je vois, non, est-ce que je le vois là, que la somme des poids, la somme, alors est-ce qu'il faut que ça soit explicite? Il faut que ça soit explicite. Bon, ce n'est pas explicite là, mais la somme des poids affectés d'une part au champ de base, d'autre part aux observations, est égale à 1. Bon, alors, c'est ça. Chaque observation arrive avec sa fonction d'influence, qui est la fonction de covariance entre le point d'observation et le point et les points où je vais raconter les choses. Oui.
Et là, dans cet exemple, vous avez donné la matrice de covariance de la variable. De
Oui.
l'erreur. C'est une erreur généralement qu'on connaît.
Alors, on a un champ de base. La moyenne, dans ce que j'ai dit, la moyenne statistique du champ considéré.
D'accord.
Et puis une covariance par rapport au champ de base. La covariance, c'est toujours par rapport à une moyenne. C'est toujours la covariance mesure le degré de similarité entre deux points différents, des écarts du champ que l'on a par rapport au champ de base.
Mais la figure de la pression, c'était la covariance de
Alors, c'est
l'erreur sur
la,
la mesure, c'est pas
oui,
ça?
c'est de la covariance, non pas de l'erreur sur la mesure, mais une covariance de l'erreur dans la prévision. Effectivement, je suis allé un peu vite. C'est une covariance.
Ah, donc la moyenne, le champ de base, c'est la prévision.
Oui, on anticipe sur la. Là, j'ai explicitement, votre question est tout à fait prenante, j'ai implicitement anticipé sur la suite. Le champ de base, ce sera la prévision, corrigée à l'aide des nouvelles observations. Bon, alors la correction effectuée sur, oui, la correction effectuée sur le champ de base est une combinaison linéaire de P fonctions, ou P nombre d'observations, chacune de ces fonctions étant la fonction de covariance entre le point de la mesure et le point courant. Alors, reconstituer des champs à partir d'interpolations de fonctions, c'est, ça a toujours été fait. On prend des sinus cosinus, on a des points, on met des choses qui varient en sinus et cosinus à partir des points de mesure, et puis on reconstitue des champs partout, ou d'autres fonctions. Quelquefois des polynômes. Les polynômes, ce n'est pas très malin pour ça, parce que les polynômes, ça présente des oscillations. Si on veut qu'elles passent trop près des observations, présentent des oscillations tout à fait irréalistes. Ça, c'est un exemple, mais ça montre que le meilleur choix des fonctions de base, dans ce contexte où je veux minimiser l'erreur quadratique statistique, l'erreur d'estimation quadratique statistique, les fonctions de base là, utilisées, ce sont les fonctions de covariance entre le champ, les points de mesure et les points courants. Bon, alors, l'interpolation optimale. Alors, il n'y a plus des variantes. L'interpolation univariée. On estime le champ de température à partir d'une mesure de température, le champ de pression à partir d'une mesure de pression, le champ de vent à partir d'une mesure de vent. Oh, c'est pas terrible. Interpolation multivariée. On utilise les observations des différents champs physiques pour reconstituer les différents champs physiques. Mais ça suppose de connaître les covariances entre les différents champs physiques. Alors, les covariances entre les champs de masse et de vitesse dans les latitudes moyennes peuvent être modélisées assez simplement sur l'hypothèse de géotrophique. Et puis, les covariances entre l'humidité et la température, bien qu'il y ait évidemment une corrélation entre les deux, c'est moins évident à exprimer de façon. Enfin, non, on a beaucoup recours quand même à des statistiques sur les mesures. Alors voilà maintenant, de façon schématique, les covariances obtenues à partir. Alors je suppose que j'ai pour les champs de potentiel une fonction de covariance de base. Alors, s'il est marqué ZZ, enfin, ici, il y a par exemple ZU, je viens, c'est la covariance, corrélation, il n'y a pas d'unité, entre Z au point central et U ailleurs. Alors, ça, c'est le champ ZZ dont je parle. Et je me pose la question, quelle est la covariance entre Z et U? C'est la question que vous m'avez posée il y a 5 minutes. Donc, comment fait-on pour prendre la covariance entre le champ de vitesse et de... si je me place dans l'approximation géostrophique, si ici, le champ géopotentiel tend à être élevé par rapport à sa moyenne, ça veut dire que j'aurais tendance à avoir une haute pression là. Et une pression par la convection géostrophique dans l'hémisphère nord, ça veut dire une rotation dans ce sens-là. Une rotation dans le sens des équipes du monde dans l'hémisphère nord. C'est-à-dire un U positif ici et un U négatif ici, statistiquement. Alors voilà comment, sur l'hypothèse des géostrophiques, on obtient une estimation de covariance entre le champ de géopotentiel et le champ de vitesse. Alors ici, j'ai ZV. Ben, j'ai la même chose. Si Z tend à être plus grand que sa moyenne au sein de la figure, on a une circulation dans le sens des équilibres du monde, c'est-à-dire V positif ici et V négatif là. Bon, et puis Z2, Z2. Alors pour UV, ben c'est la même chose. Si U, par exemple, tend à être positif ici, U tend à être positif ici, ça veut dire une circulation cyclonique en moyenne au nord et une circulation anticyclonique au sud. C'est-à-dire une rotation de ce champ-là, c'est-à-dire V positif ici, V négatif ici, V négatif ici et V positif là. Et quant à UU, j'obtiens quelque chose comme ça, avec des noyaux allongés. UU, dans le sens est-ouest, avec un noyau positif allongé, des petits noyaux négatifs au nord et au sud. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, à partir d'observations. La corrélation, la covariance du champ dur, la corrélation du champ de vitesse avec lui-même dans les latitudes moyennes à cette allure-là. Bon. Alors, un exemple. Alors, malheureusement, cette figure, je l'aime bien, je la connais bien et je l'ai bien utilisée, mais elle n'est pas très visible. C'est un truc assez ancien, un temps où les choses-là n'étaient même pas en ligne, enfin, les résultats de la chose-là. Alors, c'est cette méthode-là mise en œuvre dans une situation météorologique réelle. Alors, quelle est la région? La région, ce n'est pas absolument évident, c'est le Pacifique Nord. Vous pouvez voir les lignes de côte. Ici, vous avez la ligne de côte de l'Alaska. Et puis ici, vous avez la péninsule des Aléoutiennes, donc les îles Aléoutiennes. Et puis ici, en l'or, là, vous avez le détroit de Béring, avec la pointe de l'Alaska de ce côté-ci et la pointe de Sibérie de l'autre. Puis vous avez la côte de la Sibérie qui descend comme ça. Et ici, vous avez la péninsule du Kamtchatka qui remonte. Et ici, la mer qui s'appelle la mer d'Okhotsk, qui avec la Sibérie au nord et le Kamtchatka à l'est. Et puis vous avez une situation météorologique privée. Alors cette région, la région du nord du Pacifique, il y a une dépression quasi permanente, la dépression des Aléoutiennes, un endroit où en général il ne fait pas très bon, c'est plutôt brouillard étant humide. Il y a peu de chances, par exemple, que le club méditerranéen ouvre jamais un village dans les îles Aléoutiennes. Bon, alors ce jour-là, vous aviez une dépression, il y en a toujours une. Alors la pression au sol est prévue et représentée par les isolignes. Alors, en particulier, vous aviez une dépression ici, avec une isoligne, mais c'est noir, à 960 hectopascal. Et puis, disait, une dépression bien marquée. Et puis, vous aviez un champ, moi j'entends ici, vous aviez aussi un champ de vent. Le champ de vent prévu est représenté par des vecteurs, alors des vecteurs qui représentent effectivement. Qui représente effectivement le champ de vent en tant que vecteur, c'est-à-dire sa direction et son intensité représentée par le vecteur. Et puis là-dessus viennent des observations. Alors par exemple ici, vous avez une observation de pression à 957 hectopascal, tout près de la ligne 960 prévue. Bon, vous ne pouvez pas le lire, mais croyez-moi sur parole. C'est-à-dire que la dépression n'était plus creuse que ce qui était prévu. Et puis, ici, vous avez une valeur à 990, alors que la ligne, tout près de la ligne 995 prévue. Et puis ici, vous avez 995 et 1000. Donc un gradient de pression assez intense entre ces deux points-là. Puis vous avez des observations du vent. Alors là, les observations du vent, elles sont faites comme ça a été fait, enfin portées En fait, porter comme c'est dans le matériau de base des météorologistes dans l'ancien temps, c'était des cartes écrites, faites à la main. Alors faire pour représenter le vent, un vecteur dont la longueur représenterait l'intensité du vent, c'est pas très commode. Alors au lieu, ça n'était pas sur la longueur, on mettait simplement un trait qui montrait la direction d'où venait le vent. Des petites débarbules au bout du trait qui représentaient l'intensité du vent. C'est comme ça que voilà. Alors là, par exemple, vous trouvez ici deux vents observés qui sont à peu près à 90 degrés avec le vent prévu. Ici, vous trouvez deux vents observés, là sur la côte du Kamchatka, qui sont à 90 degrés, 90, à 45 degrés. Ici, vous trouvez deux champs observés qui sont à 90 degrés avec le vent prévu. Alors là-dessus, sur ce champ prévu, on a mis en œuvre une analyse optimale en prenant des modèles pour les fonctions de covariance des erreurs d'observation, modèles fondés de ce type-là, typiquement. Avec... Et alors ici à droite, c'est le champ corrigé. Alors vous voyez par exemple qu'au centre de la dépression, où il y avait une mesure à 957, et puis la ligne la plus basse était prévue était à 960. Maintenant, vous avez une ligne à 955. Et puis, vous avez 957 qui est entre la ligne 955 et la ligne 960, mais pas aux deux cinquièmes. Il y a une erreur d'observation. Le système n'ajuste pas exactement les observations. Ici, vous aviez une mesure 990, nettement inférieur au 995, vous avez une ligne maintenant qui est apparue à 990, qui a été creusée. Ici, les vents ont été corrigés et maintenant les vents estimés sont dans la direction des vents mesurés. Par contre, ici, comme chaque cas, on n'a rien changé. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien changé? Parce que ces vents sur la côte, comme chaque cas, c'est une région montagneuse. C'est très probablement des mesures à la sortie d'une vallée, donc une mesure de vent qui n'a aucune valeur, qui n'a pas de signification. Pas de signification à grande échelle. Donc les mesures ont probablement été ignorées parce que on savait, le code savait que ces mesures-là, ce n'est pas la peine de les mettre. Donc ça n'a rien changé. Donc ici, vous avez une petite correction effectuée sur une prévision à partir des observations, en suivant l'algorithme que j'ai décrit. C'est ça que ça donne. Oui. Oui, là c'était une prévision à l'échelle de 6 heures ou de 12 heures, je me rappelle. Oui. Oui. C'était 6 heures ou 12 heures, je ne saurais plus me dire, on pourra retrouver, mais c'était 6 heures ou 12 heures. Oui. De toute façon, c'était des mesures effectuées à une heure synoptique, je vous ai dit que les mesures par la Convention internationale, en fait, ce genre de mesures-là, sont faites à 0 heure UTC, 12 heures UTC, et éventuellement 6 heures et 18 heures. Bon, alors ça, c'est un dire pour un dire un peu plus sûr. Pendant longtemps, je disais il y a 5 minutes, l'outil de base des météorologistes, c'était des cartes avant les ordinateurs. Les météorologistes, bon, faisaient une carte à la main avec un crayon et une gomme pour la prévision. Et puis, ils laissaient la prévision, rentraient chez eux. Le lendemain matin, ils revenaient et des observations étaient venues entre-temps. Alors, ils pointaient à la main les observations sur la carte qu'ils avaient prévue. Et là, ils faisaient l'analyse de la situation. C'est-à-dire, compte tenu des observations qu'ils ont obtenues, qui étaient tenues pendant la nuit, ils corrigeaient un peu ce qu'ils avaient prévu. Et puis, ils en produisaient une observation. Il faisait l'analyse de la situation, opération hautement subjective. Et on savait très bien que parmi les météorologistes, il y en avait qui étaient de bons analystes, qui étaient bons à cet exercice, dans lequel ils accumulaient une connaissance empirique, peut-être un peu de physique, mais assez peu de physique. Ils avaient l'analyse de la situation. Alors évidemment, quand des ordinateurs sont disponibles, ils l'ont fait faire par la machine ce qu'ils faisaient à la main. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle analyse. Ça s'est appelé analyse objective par opposition à l'analyse subjective du météorologiste. Et c'est devenu l'analyse objective. Et c'est exactement ce que fait cet algorithme. Corriger la prévision à l'aide des observations nouvelles, à l'aide d'un algorithme mathématiquement bien défini. L'idée, ça n'a pas été d'introduire de la physique. L'idée, ça n'a pas été. La idée, ça a été de faire faire par le calculateur ce qu'on faisait par la main, ce qu'on faisait à la main. D'ailleurs, il a fallu un certain temps pour que ce que faisait l'analyse par le calculateur fasse mieux que ce qu'on faisait à la main. Il y a toujours eu des gens tout à fait, des gens expérimentés et qualifiés qui faisaient des analyses à la main. Oui.
Là, les mesures, on les a en même temps qu'à prévision.
Les mesures ont.
On les a en même temps qu'à prévision.
Ah non, après, non, on les a après. Dans ce que je racontais, le météorologiste faisait sa prévie et puis revenait à l'heure de la prévie, à l'heure prévue pour la prévie et pointait dessus les observations qui étaient arrivées entre-temps.
D'accord. Et ça permettait de...
Et ça permettait, alors d'une part, de faire l'analyse, ce qui, à cette époque-là, c'était une chose importante. Et à partir de l'analyse, à droite là, c'est l'analyse, faire une prévision.
Mais si, c'est une prévision actuelle, quoi. Enfin, c'est-à-dire de dire, de toute façon, qu'en fait, c'est un peu, c'est pas des réanalyses, ça, plutôt?
Ah, non, les réan... bon. Non, d'abord, ce n'est pas des réanalyses dans la mesure où elles ont pour but de faire une prévision tout de suite après. Les réanalyses, c'est autre chose. Si on reprend des observations sur de longues périodes de temps, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, avec les algorithmes actuels et avec les moyens de calcul actuels, plus puissants que ceux que l'on pouvait avoir à l'époque, et on refait des analyses avec les observations anciennes, sur les temps anciens. Et alors une grande différence aussi, c'est qu'avec les réanalyses qu'on fait maintenant, on peut utiliser des observations qui sont venues ultérieurement à l'instant temps, en analyse. Si je veux reconstituer les champs météorologiques pour le 18 avril 1970, à midi, à 12 h UTC, je peux utiliser des observations effectuées le même jour à 18 h UTC ou le jour suivant à 0 h ou 12 h. Des observations postérieures à l'instant d'analyse. Ce qu'évidemment, on ne peut pas faire avec dans un système opérationnel et où il faut faire la prévision le plus rapidement possible. Donc, les réanalyses, c'est différent dans la mesure où ça, on reprend des observations passées avec des algorithmes et des moyens de calcul actuels et où l'on peut utiliser des observations qui, à l'époque, n'ont pas été utilisées parce qu'elles n'étaient pas arrivées ou je sais pas quoi, mais qui sont devenues disponibles entre-temps. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Et puis, on peut utiliser des observations postérieures à l'instant d'analyse.
Comment on peut utiliser des données, enfin des observations à l'instant T pour améliorer les prévisions
Oui, oui.
à N plus 1. Enfin, ça,
Oui, absolument, absolument, absolument.
mais là, avec ce qu'on a fait pour l'instant, on ne peut pas encore le faire, ça, non?
Mais si on le faisait, parce qu'ensuite, à partir de ça, on faisait une prévision. Le champ à droite, là, l'analyse de droite, était le point de départ d'une prévision.
Ah, d'accord. Donc c'est l'état initial.
Oui, ça devenait l'état initial de la prévision. Pour obtenir l'état initial de la prévision, on prenait la prévision qui vient du passé, on la corrigeait à l'aide des nouvelles observations, et à partir de ça, on faisait une nouvelle. Et alors, c'était des corrections qui était peut-être un peu mineur, mais qui gardait le système proche de la réalité. Si on ne faisait pas ça, ben, il y aurait divergence, sensibilité aux conditions initiales, et au bout de 5 ou 10 jours, on obtiendrait des choses tout à fait différentes. Pardon, oui.
Il a commencé.
Est-ce qu'on est sûr qu'on fait les analyses, donc on obtient un nouveau champ à la fin? Est-ce qu'on est sûr que ça vérifie les équations du modèle? Parce que,
Ah, bon, ça, là, vous participez à la suite. Mais on se voit quand même. Bon. Alors, midi 10, bon, je vais encore parler un peu, alors. Oui, alors là, je donne ici quelque chose que. Oui, les formules que je vous ai données jusqu'à présent étaient relatives à l'estimation en un point, une estimation d'une quantité scalaire. XA, c'est le champ en un point donné, égale cette fonction-là, cette expression-là, qui fait intervenir ici un produit. Matrice ligne, matrice carré, matrice colonne, qui est un scalaire. Et puis vous aviez PA, l'erreur associée, que je n'avais pas, l'erreur d'estimation associée, que je n'avais pas, qui est ce que j'avais écrit là avec le théorème de Pythagore, hein, qui est E de x' 2 moins 2 de x' au carré, CXX moins une quantité qui est C de XY, C de Y, C de Y. Là encore, un produit, matrice ligne, matrice carré, matrice colonne. Les champs ici, ça, cette expression, et l'erreur associée, ne dépend pas des valeurs observées. Hein? Ça utilise des hypothèses sur les erreurs, l'incertitude affectant les valeurs observées, dans C de Y et C de XY, mais ça n'utilise pas les valeurs observées. Alors ça, c'est l'équation pour un point, pour un champ scalaire. Si je reconstitue tous les champs à tous les points de grille, ben je vais avoir ça en chaque point de grille. Donc écrit dans un vecteur global, c'est-à-dire XA global, égale E de X. Alors j'aligne toutes ces équations scalaires à tous les points de grille. J'obtiens une équation vectorielle. Ou ici, au lieu d'avoir un vecteur ligne, j'ai une matrice de covariance. Et puis c'est Y moins 1, c'est la même chose. Mais là, ce n'est que l'équation vectorielle obtenue à partir de toutes ces équations scalaires, à tous les points de grille. Mais si je prends l'erreur associée, alors maintenant l'erreur, j'ai beaucoup plus. J'ai beaucoup plus que l'erreur individuelle sur les valeurs scalaires. J'ai aussi la covariance entre les erreurs d'estimation en différents points. Donc j'ai maintenant une matrice NN, où N est le nombre de points à constituer. Ici, j'ai une équation vectorielle portant sur un vecteur N. Et là, j'ai une matrice de covariance NN qui est égale à la matrice de covariance des champs de base moins la matrice XY, CY moins 1, CYX. C'est-à-dire que j'ai des estimations de covariance non seulement pour les termes diagonaux, comme ce que donne cette équation-là, mais pour les termes en dehors de la diagonale. C'est-à-dire, j'ai une estimation globale de toutes les covariances d'erreurs d'estimation. Ça peut être interprété d'ailleurs, cette équation, comme une espèce de théorème de Pythagore à grande dimension. Bon. Alors. Quel est le rapport avec la Bayésianité? Je vous l'ai encore dit tout à l'heure, que je mettais tout ça dans une logique d'estimation bayésienne. Là, je ne vous ai aucunement parlé d'estimation bayésienne pour l'interpolation optimale. Eh bien, il y a un résultat simple. Quand le couple Y est globalement gaussien, je reviens à cette notion de vecteur, quand le couple Y est globalement gaussien, et alors là, il faudra que je mette effectivement X transposé également, enfin, et globalement. Eh bien, l'interpolation optimale fait l'estimation bayésienne en ce sens que la distribution de probabilité du vecteur X connaissant le vecteur Y, c'est la loi gaussienne, c'est la distribution gaussienne de moyenne XA et de matrice de covariance PA, où XA et PA sont donnés par ces équations-là. Donc dans le cas gaussien, l'interpolation intimale revient l'estimation bayésienne. Dans le cas où toutes les erreurs, dans leur totalité, sont gaussiennes. Donc ça fait le lien avec l'estimation bayésienne. Alors il faut que je quelque chose. 51, il faut que je corrige ça. Bon, alors. Alors, l'interpolation optimale est en fait une approche plus générale dont vous avez peut-être entendu parler et dont vous pourrez entendre parler, qui s'appelle le Krijging, qui a été développé à l'origine dans des champs, dans des questions qui n'avaient rien à voir avec la météorologie, qui a été développé dans les applications minières pour l'estimation du contenu d'un gisement minier à partir de sondages locaux. Et alors, c'est en gros le même algorithme, mais qui, dans ce contexte minier, a été plus développé parce que les choses importantes à faire étaient différentes de ce qui est important de la météorologie, qui a été tout plus développée par certains côtés. En particulier, qui utilisait beaucoup les observations elles-mêmes pour estimer les covariances nécessaires. Alors évidemment, ça se mord la queue, hein, si on utilise les observations pour corriger les observations. Bon, enfin, c'est utile. Dans ce contexte-là, c'est certainement utile. Bon, alors j'en ai fait au total moins que je pensais. Vous avez posé des questions sur quoi vous avez eu tout à fait raison. Y a-t-il des questions là? Parce que maintenant, je vais vous parler de quelque chose de superficiellement différent, mais je ne pourrai pas le traiter entièrement, puisqu'il reste un quart d'heure, mais je vais quand même vous en ai parlé. De ce qu'on appelle best linear unbiased estimator. Alors je prends la condition suivante. Je veux estimer un vecteur x qui appartient à un espace d'état d'une dimension n. Les données dont on dispose, c'est ce qu'on appelle une première estimation du champ de la forme XB égale X, l'inconnu, plus une erreur, zeta B. B, ça veut dire background. Et puis, un ensemble additionnel de données, par exemple des observations, qui appartiennent à l'espace d'observation, qui a dimension P, de la forme Y égale HX plus epsilon, où H est un opérateur pour le moment linéaire, c'est-à-dire que j'ai des observations sur X par l'intermédiaire de cet opérateur linéaire H. Ça me donne Y. Alors quand je dis background des données additionnelles, ça correspond assez bien à la situation que je vous ai décrite en météorologie, où le background, en français, on dit souvent l'ébauche, où l'ébauche, c'est la prévision. Et puis les observations, c'est les observations qui arrivent, et c'est exactement ce qu'il y avait sur cette figure-là. On avait à gauche le background, l'ébauche, plus les observations. Et puis ça, c'est ce qu'on en a déduit après. Alors, je suppose, il faut bien faire des hypothèses pour arriver quelque part. Alors, je suppose, et les hypothèses sont toujours faites plus ou moins de telle façon que les calculs soient faisables. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement totalement réalistes, mais enfin, si on veut avancer, il faut. Alors, je suppose que les erreurs, là, j'ai des erreurs, zeta b sur l'ébauche et epsilon sur les observations. Mais quand je dis ébauche et observation, ça peut être n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que les observations sont ultérieures à l'acquisition de l'ébauche. Hein. Elles peuvent être antérieures, ça peut être. C'est pas. C'est à peine n'importe quoi. Alors, je suppose qu'une probabilité de distribution est connue pour le couple zeta epsilon. Alors, je suppose en particulier que E, la moyenne de zeta b et de epsilon, est égale à 0. Si elle n'était pas égale à 0, il faudrait que je la connaisse et que je commence par retrancher cette moyenne de xb et de y, de façon à obtenir des données qui, dans l'erreur, affectent une erreur dont la moyenne est nulle. Donc, supposer que ces erreurs sont nulles, c'est en fait supposer que l'erreur, c'est en fait supposer que je connais une erreur moyenne. Je suppose que zb et epsilon sont décorrélés. C'est pas vital. C'est pas vital. Je vous montrerai comment. Et puis alors, j'ai des matrices de covariance pour zeta b, mais E de zeta b, zeta b transposé, matrice de covariance de Lévauche égale P b, et puis matrice de covariance des erreurs d'observation égale R. Et puis les matrices croisées, elle est nulle. Alors cette PB, je vous dis tout de suite, dans beaucoup, dans la littérature de météorologie, elle est souvent notée B. Je note PB pour cohérence avec ce qui sera noté, d'ailleurs j'ai rentré tout à l'heure, PA. Alors, c'est ça. Une distribution de probabilité est connue pour zeta b et epsilon. Ça me définit une distribution de probabilité pour le couple XY. E de X égale XB. X prime égale X moins EX moins zeta b. E de Y égale HXB. Y prime, l'écart égale Y moins E de Y égale Y moins HXB. C'est-à-dire epsilon moins H zeta b si j'utilise le fait que H est linéaire. Et cet écart, le E de Y prime, qui est l'écart entre l'observation et ce que prévoit l'ébauche, s'appelle le vecteur innovation. Je n'ai pas encore introduit le mot, mais en fait, le vecteur innovation était là. À gauche, le vecteur innovation, c'était l'écart entre les observations et la prévision, et l'ébauche. C'était ça le vecteur. Oui?
Si c'est par exemple la température, directement, l'opérateur H, c'est juste l'identité.
Oui, si. Effectivement, ça peut être l'identité, absolument. Mais ça peut être que l'observation n'est pas au point où l'ébauche est définie. Donc, il faudra définir en tout point. D'accord. Et puis, ça peut être beaucoup plus grand que ça. L'observation, ça peut être une radiance mesurée par le satellite, qui est en fonction du problème de température. Hein. Bon. Toc, toc, toc. Voilà. Donc, la différence s'appelle vecteur innovation. Ben, maintenant, j'ai une distribution pour X. Une distribution de probabilité pour X et une distribution de probabilité pour Y. Je connais, d'après mes hypothèses, je peux utiliser les formules de l'interpolation optimale. Les covariances, je les ai, parce que je fais des hypothèses sur l'erreur. Je fais l'erreur de faire l'erreur des hypothèses. Je fais des hypothèses. Sur la matrice de covariance de l'erreur zeta b et la matrice de covariance de l'erreur epsilon. Et j'ai supposé que les deux étaient corrélés. Donc j'ai tout ce dont j'ai besoin pour utiliser les formules d'une interpolation optimale. Je le fais. Alors là, je vais un peu rapidement sur les calculs. Je vais un peu rapidement, monsieur, donc je le dis, je vois. J'arrêterai. Donc j'applique xa égale e de x plus c de y, c'est-à-dire que moins 1 y moins z de y. pb égale c de x, non, les formules que je vous ai déjà données. J'ai E de X égale XB, X prime égale moins zeta B. Donc C de XY, la covariance entre X et Y, c'est la covariance X prime Y prime T, égale la moyenne de moins zeta B, epsilon moins H de zeta B, égale la moyenne de zeta B epsilon transposé, que j'ai supposé égale à 0. Mais si ça n'était pas égal à 0, je pourrais ici mettre une valeur non nulle. Plus la covariance de H de zeta b transposé, c'est-à-dire PBHT, et puis C de Y, Y moins 1, ben je refais le même calcul, et je trouve que c'est R plus HPBHT. Donc je peux utiliser ma formule. Question, vous avez? Non. Et j'obtiens là-dessus. J'obtiens XA égale XB plus PBHT multiplié par SPBHT plus R à la puissance moins 1 multiplié par Y moins XB. Et puis l'erreur correspondante, une matrice complète, PA égale PB moins quelque chose, PBH. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le meilleur estimateur linéaire, loup de X à partir des Y. C'est ça. Alors si vous faites de l'assimilation, ces formules-là, vous n'avez pas fini de les voir. Hein. Tout de suite, hein, vous n'avez pas fini celle-là. Alors, je dis tout de suite que, alors, oui, D, Y, moi je l'ai B, c'est ce qu'on appelle le vecteur innovation. Ça dit, c'est ce que Y apporte par rapport à l'ébauche. La matrice PBHPB plus 1 moins 1 s'appelle la matrice de gain. Cette formule-là, elle est assez facile à comprendre, en fait. Non seulement elle est facile à comprendre, mais avec un peu de réflexion, on pourrait même l'intuiter. Si PB est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dans l'ébauche, ben, je n'ai pas à corriger l'ébauche. Donc la correction doit être nulle. Je prends le rôle de R, les erreurs d'observation. Plus l'erreur d'observation est grande, plus la correction à effectuer sera petite. Donc là, c'est normal que R apparaisse en dénominateur. Plus R est grand, plus la correction à effectuer est petite. C'est logique. Si par contre R plus R est grand, plus la correction. Si par contre R est égal à 0, ben je vois ici que je vais avoir PBHT, HPBHT, puissance moins 1. Et quand je vais appeler H, l'erreur d'observation, sur l'état analysé, j'aurai HPA, HXA, égale HXB, plus HPBHT, HPBHT à la puissance moins 1, puisque R est nul. Donc ça va s'éliminer. C'est la matrice identité. Plus Y, moins HXB. Et ici, j'ai HXB. Donc il me restera Y. Donc si je suppose que les erreurs d'observation sont nulles, eh bien, ce système va me reconstituer les valeurs observées au point d'observation. Logique. Alors tout ça, en fait, cette formule, on pourrait l'intuiter simplement par le raisonnement. A un coefficient multiplicatif près. Bon. Alors, il y aura toujours un coefficient multiplicatif près pour lequel il faut un calcul. Mais le principe de l'optimalité conduit nécessairement à cette formule-là. Alors, je dis deux choses. Il existe un autre jeu de formules que je commettrai un peu plus, dans lequel la matrice de gain, au lieu d'être PBHT, c'est PA, l'erreur sur l'état estimé, H transposé R moins 1. Et puis on a que PA moins 1 égale PB moins 1 plus HT R moins 1 H. Ça, c'est une formule qui fait intervenir les inverses des matrices de covariance. Tandis que cette formule-là fait introduire les matrices de covariance directes. Mais ce sont deux jeux d'expressions équivalentes. En particulier, PAH transposé R-1 est égal à PBHT. Non, les deux formules-là sont égales. Vous pouvez vous amuser à faire l'exercice. Vérifiez que ces deux matrices sont égales. Matrice de gain. Et alors, quel est le rapport avec la gaussianité? Avec la bayésianité, excusez-moi. Quel est le rapport? Eh bien, si le vecteur zeta epsilon globalement est gaussien, le blue, le best linear unbayésien, réalise l'estimation bayésienne dans le sens que la probabilité de x connaissant xb et y, c'est la loi gaussienne de moyenne xa et de matrice de covariance pa. En fait, c'est ce que je vous avais dit il y a 10 minutes à propos de l'interpolation optimale, parce que ceci n'est qu'une généralisation de l'interpolation optimale. Donc, c'est une méthode tout à fait générale pour produire, par combinaison linéaire, la meilleure estimation au sens du minimum de variance de l'erreur d'estimation, le meilleure estimation de ces quantités X connaissant une première estimation du X et connaissant des observations additionnelles Y. Bon, je vais arrêter ici. Je reprendrai ça la prochaine fois. Bon, alors le prochain cours, c'est mercredi prochain, ici, même heure. Donc, je prendrai la suite de ça. Alors ensuite, il y aura pas mal de troupes, puisque il y aura ensuite, là, certains de vous l'ont dit, la réunion de l'EGU à Vienne. Donc, certains vont y aller, à ce que je comprends. D'autre part, moi, je n'irai pas, mais des sessions que je voudrais suivre. Je ne savais pas quel était le programme des sessions, donc je voulais m'en réserver la semaine. Ensuite, c'est le 12 mai, la représentation le 12 mai. Et ensuite, bah, je partirai moi-même pendant une dizaine de jours en vacances et je ne reprendrai que le 28 mai. Alors, quand même, une petite chose, je vous signale que le 5 mai, au Collège de France, il y aura une réunion sur le thème intelligence artificielle et mathématiques pour la météorologie et la climatologie, où il y aura un certain nombre de présentations, en particulier une présentation par Marc Boquet, que certains d'entre vous doivent connaître, de l'École nationale, qui étudie beaucoup ces questions d'assimilation, et qui parlera de l'intelligence artificielle pour l'assimilation de données géophysiques. Donc vous pouvez aller voir sur le site du Collège de France, et si vous êtes intéressé, je crois qu'il doit pouvoir vous l'inscrire. Oui, le site est là, tiens, je croyais mal sorti. Bon, je croyais plus sorti. Bon, oui. C'est soir 2, pardon.
Oui. Préparation par nature de X sont pas de scène actuellement. Est-ce qu'on essaie de transmettre en deux semaines?
Oui, ça fait des oscillations. Ça fait de prendre une observation pour laquelle on a de les transformer en deux. Je ne peux pas dire que j'ai vu des résultats vraiment très importants, mais pendant mercredi prochain.